Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC.
Je te dis hey!
Hey!
Je te dis hey!
C'est génial!
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça fait longtemps, mais oui, la dernière fois c'était à Cannes.
Ouais, c'est vrai. Voilà.
C'était pas mal, hein?
C'était pas mal,
excellent.
La croisette.
Magnifique.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Niel. Comment ça va?
Bonjour, merci, ça va très bien.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Eh bien, je suis Jérôme Niel, acteur et auteur. Évoluant dans l'hémisphère sud.
Très bien, je note. Voilà. Dans cet épisode, nous allons parler d'un film qui a bercé ton enfance et ton adolescence, à savoir Sacré Robin des Bois. Sorti en 1993 et réalisé par l'immense Mel Brooks qui vient de fêter ses 96 ans, Sacré Robin des Bois est un film parodique qui parodie donc le Robin des Bois de Kevin Reynolds sorti 2 ans plus tôt avec Kevin Costner, mais aussi tous ceux sortis avant, je pense à l'adaptation avec Errol Flynn datant de 1938, mais aussi au Disney de 1973. Sacré Robin des Bois s'inscrit dans la grande tradition des films parodiques américains, de Y a-t-il un pilote dans l'avion à Alarme fatale en passant par les Hot Shots. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film, et je vais commencer avec Jérôme.
Eh bien, donc déjà je suis ravi, merci pour l'invitation et qu'on parle de ce film qui me tient à cœur particulièrement.
Cool.
Moi j'ai tellement de scènes de Sacré Robin des Bois, mais j'en ai une qui me vient à l'esprit, qui est une sorte de mini clip un peu rap, où il y a donc des gars habillés un peu en Robin des Bois, en avatar de Robin des Bois en collant, et qui font un rap. Alors moi, je parle bien sûr de la version française, parce qu'à l'époque, c'était en version française, donc c'était vraiment des « Yo, 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 écoute ça !» et c'était genre mais hilarant, avec mon petit frère et mon grand frère, on n'en pouvait plus, on la mettait en boucle, et donc c'est une sorte de rap qui raconte un peu l'histoire, qui pitch l'histoire qui va commencer, et donc c'est absolument hilarant, ça dure 1 minute, et ça, vous pouvez le trouver sur YouTube, cet extrait. Donc c'est 1 minute de rap.
Et d'ailleurs c'est juste après le générique, c'est genre le début du film.
C'est ça. Ouais. C'est pour lancer le truc et à la fin ils finissent ils font un truc sur ils font une pause, ils font c'est génial. et je pense qu'en anglais ils disent pas ça.
Non.
Et genre c'est hilarant. Et donc ça je vous conseille, si vous tapez Sacré Robin des Bois rap et normalement vous l'aurez en français et c'est.
En vrai
c'est
ça génial. Peut paraître ringard le yo. Mais aujourd'hui, ça existe encore parce que les gens disent yo avant de dire bonjour.
Yo,
tu le dis toi ?
Non, moi je le dis pas, mais yo persiste finalement.
En texto, en tout cas, moi je le dis beaucoup.
Bah tu vois,
ouais.
Finalement, ça n'est pas si ringard que
vous
ça.
Vous dites Ziva ou pas Ziva, non ?
Ziva, non. Ouais. Je me souviens, mon oncle, quand tu sais, on parlait un peu Kaira à la maison quand j'étais ado, il disait yo Ziva la cité, mais personne dit ça. Yo Ziva la cité.
L'enchaînement.
Yo Ziva la cité. Non, ça veut rien dire cette phrase en plus. Mais est-ce que du coup, t'as un souvenir d'époque de comment tu le regardais? On en parlait en DM et tu me disais que c'était une cassette que tu regardais avec ton frère, je crois.
Ouais.
C'est vraiment au niveau de l'emplacement de souvenirs, ça donne quoi?
C'est la cassette, donc on avait plein de VHS enregistrés qu'on avait enregistrés, ils devaient passer sur Canal à l'époque ou quoi. Et donc on le ponçait absolument tous les mois. Et dans ce petit placard à 1000 VHS qu'avaient mes parents et nous, quoi. Et on le regardait dans le salon à chaque fois. Vraiment, ouais, une fois par mois facile. Il y a eu une époque où on n'arrêtait plus, on le remettait. Et c'était peut-être une cassette où il y avait un deuxième film d'ailleurs. Et peut-être
je me demande
si on les a encore, et si on l'a encore, faudrait que je demande à ma mère de retrouver pour voir si on l'a encore et quel est le film derrière.
Il y a ce truc où quand t'es jeune, ça te gêne pas de voir la même cassette, peut-être même 10 fois par mois ou 15 fois par mois.
Facile, c'est fou.
Et surtout quand tu l'enregistres à la télé, la pub du milieu, elle fait partie du film.
Ouais, par cœur.
Ouais. Tu vois, moi, je me souviens, j'avais la cassette des Goonies et je serais capable de te dire toutes les pubs qu'il y a, tu vois. Ça enchaîne sur la pub mousseline et puis après, il y a un truc pour la machine à laver, etc. Vraiment, je connais toutes les pub comme je peux connaître le film, c'est assez fou quoi. C'est quoi ton premier souvenir du film, Guillaume, du coup, vu que tu l'as pas vu?
Je l'avais jamais vu et je l'ai vu pas en entier tout à l'heure. C'était un super souvenir. Moi, c'était dans mon salon sur un ordi.
Bonjour du riz blanc.
C'était bien, mais je l'ai pas fini du coup.
Alors, est-ce que t'as aimé le début?
J'ai beaucoup aimé le début. Bah effectivement, bah c'est un peu l'humour qu'on aime, hein. Mais notamment une scène où je me suis dit c'est vraiment très bête, où il doit traverser un pont. Et il se bat avec un gars avec des bâtons.
Petit Jean.
Le grand
Jean.
Bâton se casse. Du coup, ils ont un bâton moyen. Et après, le moyen bâton se casse. Et ils ont des mini bâtons. Ouais. Ils continuent à battre au bâton. Et il lui tape sur les mains. Il va aïe, oui.
Ouais, c'est génial.
C'est très très con.
Oh là, et toi, Aurélien?
Eh bien, moi, quand j'étais au collège, j'avais un pote, mon meilleur pote, je pense. Il était fan de parodie. Donc, je suis allé le voir au cinéma, ce film.
Oh, oh.
J'avais 13 ou 14 ans, je crois.
Oh,
donc je l'ai vu au cinéma, et tu sais, c'était ces séances de ciné où t'y allais, mais tu sais, c'était un peu un spectacle. Tu allais qu'avec tes potes, tu sais, tu foutais un bordel dans le ciné. Et tu venais pas pour voir le film, tu venais pour participer au film, tu vois. Donc dès qu'il y avait une vanne, tu te levais, t'allais chercher des trucs, t'avais un pote qui était à l'autre bout de la salle, on s'envoyait des popcorn.
Oh là là, j'ai jamais vu ça.
De ma vie. T'es ce genre de gars là?
Non, mais c'était le samedi après-midi, il y avait pas grand monde dans la salle.
T'as agacé la séance de gens.
C'est pas un film qui a fait énormément d'entrées, et en vrai, je pense qu'il y avait que nous dans la salle, tu vois. Je m'en rappelle même où on était positionnés et tout. On s'envoyait des vannes. Et depuis, bah, je pense que oui, je l'ai revu des milliers de fois. Je pense que je devais avoir aussi la cassette.
Mais ouais,
de...
c'était fou.
Et ouais, pareil. En fait, ne serait-ce que la première fois que je l'avais vu, j'avais énormément d'images qui m'en viennent tout le temps, tu vois. Genre, et c'est vrai que la version française, elle était incroyable. Avec Mirette, enfin.
Mirette!
C'était. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait là, Mirette? Avec son Playboy là, enfin, tout, moi je me rappelais de tout. Puis tu sais, il y avait des trucs, en plus j'avais 13 ans, gros puceau, toutes les vannes avec, ouais. Tu sais, le drap et son épée, ça devient sa bite. Oh là là!
Ouais, puis même la blague,
ça faisait rire à
la
vanne.
La vanne où, donc il est aveugle ce gars Mirette.
Ouais, Mirette.
Et la vanne où il pense que son pote est revenu, donc Robin des Bois, et en fait c'est juste une statue, puis il touche les seins, il fait ouais, attends, t'as des seins maintenant et tout, tu vois, genre. Il y a des vannes comme ça, quand t'as 12-13 ans, tu tapes des barres.
Oui, c'était quoi, en fait, ouais, il arrive dans le château, il rentre au château et tout est défoncé, donc t'as Mirette qui est un acolyte qui l'attendait. Il fait « Oh, vous êtes rentré des croisades !» Et du coup, il se rapproche de lui, mais comme il est aveugle, il ne le voit pas, donc il touche la statue
qui
n'a plus de bras.
Qui est la Vénus de Milo.
« Vous avez perdu vos bras à la guerre !» Et ensuite, il touche les seins et il fait « Par contre, niveau pectoraux... » Enfin, c'est que des vannes, enfin, comme ça, en français, bien évidemment. Et donc, tu me disais qu'il était... introuvable en VF.
Alors si vous voulez voir ce film, parce que là vous écoutez ce podcast, si vous voulez le voir, ça va être très compliqué parce qu'il est pas disponible en VOD sur Netflix, Amazon, tout ça. Donc très compliqué de l'avoir, et en le cherchant je me suis dit il y a quand même encore l'importance du DVD aujourd'hui, parce que si j'avais eu le DVD j'aurais été très content de...
Et si vous le cherchez en américain, il faut savoir que le titre américain c'est Men in Tights. Les hommes en collant, ce qui est quand même assez gaulerie.
Moi je l'ai revu hier, et ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas revu, et pareil que toi Jérôme, c'est un film que je regardais en boucle parce que j'avais la cassette à la maison. Et puis en plus moi j'étais fan de parodie, j'avais la cassette de Alarme Fatale, tous ces films là, Hot Shots, etc. Et c'était vraiment un humour qui me plaisait parce que comme j'étais méga fan de cinéma, c'était un truc où il y avait plein de films qui étaient réunis dans un seul et même film, c'était assez cool. Ouais. Et voilà, j'ai trouvé ça bien. Après j'ai trouvé qu'il y a des blagues qui ont un peu vieilli forcément.
Ouais. Mais
surtout je me rends compte que c'est des films parfaits à regarder quand t'as 12-13 ans, de les voir pour la première fois quand t'as 12-13 ans. Parce que c'est vraiment des vannes qui te touchent, quoi, tu vois. Ouais. Et je me souviens d'un truc qui m'avait marqué aussi, une scène que je vais oublier. À un moment donné, t'as Dave Chappelle qui se tape avec des gars et qui dit « Attendez les gars, juste deux secondes, faut que je me repump. » Et en fait, il gonfle ses pumps. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça ouf. On utilise des trucs modernes dans un film d'époque, tu vois.
En plus, en français, ils disaient attendez les gars, j'ai un coup de pompe.
Ouais. Mais voilà. Et du coup, c'est un truc qui a existé plus tard dans un film de Coppola, qui est pas un film comique, de Sofia Coppola, Marie-Antoinette, parce qu'elle porte des Converse dans le film. Il y a ce truc que j'aime bien d'époque où en gros, il y a des trucs modernes qui s'incorporent.
Mais ça n'existe plus un peu les comédies parodiques comme ça.
Bah,
ça s'est arrêté avec Scary Movie, quoi.
Ouais, ils l'ont poncé dans les années 2000 et 2010.
Après, pas eu récemment.
T'as quand même.
Non, ouais, c'est fini.
Tous les trucs de Will Ferrell et tout ça, finalement, c'est pas vraiment des reprises de films, mais il y a, tu vois,
il y a aussi
Ricky Bobby, roi du circuit et tout. Ouais, c'est quand même pas mal dans la parodie.
C'est vrai, mais je trouve que dans ces films-là, c'est en fait, ça va tellement loin. Les potards, ils sont toujours, tu sais, c'est un plan, un gag. En fait, tu sais, c'est même quand à un moment c'est un dialogue, il y a un gars qui tombe de l'échelle derrière. Ouais. Ouais, les auteurs, ils en pouvaient plus, quoi. Ils se sont dit, non, mais gars, là, ça peut être. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Mais jamais ça s'arrête. Dans ces films, tu sais, y a-t-il un pilote et tout. Mais jamais ça s'arrête. Les gars, ils sont fous. Ils ont une idée de vanne par plan, mais calmez-vous. Mais on s'en fout. Il n'y aura aucun équilibre dans notre film. On balance tout ce qu'on a. C'est d'une générosité. Les Scary Movies, c'était pareil. Ouais, là, tu fais gaga. Mais non, t'inquiète, ça. C'est bien, là. Il y a 7 gags en même temps. Ça va marcher.
Mais
il y a
pas de problème. En fait, t'as résumé ce style-là parce que je me souviens que sur la cassette, je l'avais déjà dit dans le podcast, mais sur la cassette de L'Arme Fatale, un truc qui m'avait marqué. Derrière, il y avait marqué un gag toutes les 15 secondes. Ah bah c'était la promesse du film.
Ah bah tu vois.
Et je me souviens que j'avais compté, et effectivement, parfois, c'était même 7 secondes. Un gag toutes les 7 secondes.
Mais gars, ça s'arrête jamais.
C'est ouf. C'est trop drôle. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a ce truc aussi où je pense que ce qui nous plaisait dans le fait d'avoir des cassettes comme ça quand on était jeune, c'est qu'on n'avait pas vraiment accès au rire dans le sens où il n'y avait pas YouTube. Donc finalement, quand on avait un objet comme ça à la maison, c'était un peu le seul moyen de rigoler parce que quand tu as 2-3 films comiques, aujourd'hui, ce que je fais quand t'as envie de te taper des barres, bah, tu vas sur YouTube, tu tapes des scènes comme ça, tu te la remets, tu rigoles. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça, en fait. Ouais.
Donc, j'aime bien cette phrase de j'ai envie de me taper une barre.
Bon, j'ai envie de me taper une barre.
Je vais aller sur YouTube.
Je me dis ça chez moi. Me taper une barre. Une bonne barre. Et aussi, quand même, je voudrais toucher deux mots sur Mel Brooks parce que, bon, là, il vient de fêter ses 96 ans. Et c'est une légende de l'humour, etc. Il a écrit des choses extraordinaires. Mais aussi, ce que je trouve fascinant avec la carrière de ce gars, c'est que, et ça, on le sait un peu moins, c'est qu'il est producteur de La Mouche et d'Elephant Man, quoi.
Ouais.
C'est lui qui a produit ces deux films qui sont pas des films comiques.
On peut voir aussi le genre le. Enfin, il a quand même amené de fou de ramener Dave Chappelle dans ce film en 93, à l'époque où bon voilà, c'est ses débuts. Maintenant, c'est une des plus grosses stars de l'humour, tu vois, enfin mondial. Ouais. C'est ouf quand même.
Ouais, grave.
C'est quoi votre scène préférée du film, Jérôme?
Il y en a trop.
Alors tu me disais hors antenne que parfois avec des potes tu t'envoyais des répliques comme ça, même aujourd'hui encore.
Exactement. Je pourrais même, ça se trouve, je sais pas si je pourrais trouver des vocales de David, mais ça doit être trouvable. Mais en vrai, c'est vrai que cette scène aussi avec Petit Jean était
légendaire.
Était légendaire avec le combat avec les bâtons qui rétrécissent.
Mais le ruisseau, il est minuscule, faut le savoir.
Ils peuvent complètement l'enjamber. Oui, il demande la redevance, Petit Jean. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas la redevance, on ne se remplirait pas la panse. Après, il dit, c'est de moi. Il est tout content et tout. C'est une vieille réplique toute nulle. Il y avait quoi? Il y avait aussi, il y avait genre un plan trop bizarre qui nous faisait mourir de rire avec mon petit frère. Tu sais, c'est un moment, il s'entraîne pour aller le combat final et tout. Donc, il y a Robin Desbois qui entraîne les villageois. Et genre, il tire à la cible. Et ils sont un peu nuls, bien évidemment. Et ensuite, t'as un plan de l'acteur principal, comme ça. Tu sais, qui vraiment se tourne et regarde la cam. Mais c'est très lent. C'est très bizarre. Et ça nous avait... il y a des trucs aussi quand t'es gosse où tu fais des fixettes sur des trucs pas forcément tu sais pas pourquoi c'est pas c'était comme à un moment il y a un acteur il y a un acolyte qui a les cheveux longs et qui s'appelle, attends je l'ai trouvé, et d'ailleurs qui, pour la petite histoire, la petite qui s'appelle Matthew Porretta, qui joue Will Scarlett et qui dit que son vrai nom c'est Will Scarlett O'Hara et genre lui il est avec des couteaux, tu vois, il a sa capacité avec des couteaux, et à un moment il tire sur un gars qui se fait happer par ses couteaux, genre le vêtement, et ensuite il les retire comme ça, pareil il regarde la cam, il fait je suis bon et ça c'est pareil, c'est des trucs avec mon petit ref et mon grand ref, on n'en pouvait plus. Et pour la petite anecdote, cet acteur il a fait Robin des Bois dans la série Robin des Bois qui passait sur M6.
Est-ce que ce serait pas une info tabzienne?
Ouais, c'est une info tabzienne. C'est ce gars-là que je vous montre.
Ah ouais. Ok, d'accord. Très bien. Vous pouvez le voir.
Bien sûr.
Donc, dans Sacré Robin des Bois, il joue un acolyte, et ensuite, plusieurs années plus tard, il a joué Robin des Bois dans la série Robin des Bois.
C'est drôle. Un moment où il tranche une flèche comme ça, on lui envoie une flèche, avec ses couteaux, il fait ça, et il y a un bruit de tronçonneuse.
Bon. C'est donc ta scène préférée, Guillaume, parce que je vais pas te mettre en galère.
C'est ça, ma scène préférée. Ouais. J'ai vu le film jusque là.
Moi, je l'ai revu. Il y a une vanne qui m'a fait rire que je trouvais cool. En moment, il y a Dave Chappelle qui se fait frapper par des gars, et il y a Robin des Bois qui arrive pour le sauver. Et en fait, Robin des Bois commence à défoncer tout le monde, etc. Et il dit à Dave Chappelle, surveille mon dos. Genre, en gros, il dit watch my back en anglais.
Ah oui.
Et il se prend plein de droites dans le dos. Et Dave Chappelle lui dit, tu viens de te prendre trois droites dans le dos, en fait. Parce qu'en fait, il surveille son dos, donc tu vois.
Ce qui est trop galerie juste avant dans cette scène, c'est Dave Chappelle qui est en train de se faire rouler le cou. Il fait, et pourquoi il n'y a personne qui filme ça? C'est en mode Rodney King.
Ouais, c'était
un an après, pour le coup, en termes d'actualité, c'est complètement fou.
Ta scène préférée à toi?
Moi, je me rappelle d'un truc là, c'est dans le combat final. Je sais pas pourquoi, ça m'avait toujours fait mourir de rire. Il y a un mec qui est dans le champ. avec un donut. Il se prend un coup d'épée et il meurt sur le coup. Genre, il se prend un coup d'épée, je crois, de Robin des Bois. Et tu sais, le chef fait rater. Et t'as un mec qui est derrière en train de bouffer un donut. Et il perce le donut. Et le mec fait oh merde. Il meurt. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un mec dans le champ? On sait pas pourquoi.
C'est génial.
Et ça m'a toujours fait rigoler.
Alors, Guillaume, dans ce film, le réalisateur Mel Brooks s'offre un petit caméo. Il joue le rabbin Tuckman. Ouais. Et des metteurs en scène qui s'octroient le luxe de jouer dans leur propre film, ça arrive assez souvent.
Et tout à fait. Et on commence cette liste par le pro des caméos, puisqu'il apparaît dans 40 de ses films sur 54. J'ai nommé...
Alfred Hitchcock,
bravo. Des apparitions toujours brèves en figuration comme de simples clins d'œil aux spectateurs, comme dans Les Oiseaux en 63, où il sort d'une animalerie avec deux chiens, derrière une vitre dans Psycho en 1960, ratant son bus dans La Mort aux Trousses en 59, ou en train de réparer une horloge dans Fenêtre sur cour. Bref, il est toujours partout en arrière-plan de ses films. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, le tout premier caméo était tout à fait par hasard dans The Lodger en 1927, car le comédien qui devait jouer la scène n'est tout simplement pas venu. Et Hitchcock a décidé de le remplacer. C'est comme ça qu'il a lancé ça. Et c'est par la suite devenu un jeu entre lui et les spectateurs, tellement prenant pour le public qu'il a lui-même décidé à chaque fois de ne les mettre que dans les premiers quarts d'heure du film pour ne pas distraire les gens de l'intrigue. Voilà.
Il a même fait un truc de fou. Normalement, il y a un film qui se passe uniquement sur un bateau, après un naufrage. Il a réussi à être dedans. À un moment, il regarde un journal et il y a une photo dans le journal, c'est lui.
Ouais, c'est trop bien.
C'est quand même malade, génial. Ça.
Bravo, ben, je ne l'avais pas dans ma chronique, bravo, tu l'as bien complété, merci.
Ça me fait plaisir.
Un des caméos les plus célèbres aurait celui de Martin Scorsese dans Taxi Driver en passager de Niro, qui regarde sa femme chez elle depuis le taxi, rôle d'un homme dérangé qui dit qu'il va tuer sa femme avec un 44 Magnum, et il en réalise un deuxième dans le même film, puisqu'il joue un homme assis qui regarde Cyril Shepard sortir du travail.
Ah, je ne savais pas ça.
Ouais,
ah.
Dans la rue pendant qu'il y a la voix off. Là, tu
en
vois.
Plus, Scorsese, il joue bien dans le film, ce passage-là.
Il joue carrément bien, et en fait, il devait jouer que le deuxième caméo dont je vous parle, et c'est toujours pareil, l'acteur qui devait jouer la scène du taxi et n'est pas venu, et du coup c'est Scorsese qui l'a remplacé comme Hitchcock, et après il s'est mis dans plein d'autres de ses films.
Pas mal. Il y a ses parents aussi qui jouent dans ses films.
Ouais, à chaque fois, ouais.
Ça doit être vraiment hilarant, hein, des réalisateurs de ce calibre qui disent bon bah vas-y, bah je vais le faire, hein. C'est-à-dire genre mais d'où quoi. Bah gars, c'est comme ça, j'ai le talent, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ah, je m'y colle, mais quoi.
En plus, personne peut lui dire non, t'es. C'est son film.
Ouais, c'est clair.
C'est lui qui peut dire non.
Jurassic Park, quoi, le Spielberg et tout. Allez, bah, c'est go, hein, c'est let's go, c'est pour moi, la petite fille. Et voilà.
Dans les réalisateurs habitués au caméo, on pourra aussi citer Quentin Tarantino qui apparaît dans Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Django Unchained, Inglourious Bastard. Il fait un caméo vocal dans Les Huit Salopards où il explique au milieu du film que quelqu'un a empoisonné le café. Mais son plus discret étant le caméo dans Kill Bill où il joue simplement un des cadavres au sol.
Ah ouais.
Et ça me fait bien marrer parce que je me dis, du coup, c'est juste un plan large où il y a plein de cadavres. Il dit, attends, je vais me mettre là. Et à quoi ça sert?
Mais en plus, c'est tous ces caméos-là qui lui ont permis de jouer la comédie dans Une nuit en enfer, du coup.
Ouais, c'était trop bien. Et je le vois bien allongé dans Kill Bill faire. Et action! Ouais, comme ça, par terre.
Et caméo discret aussi pour Peter Jackson dans Le Hobbit où il joue simplement un nain qui court.
Un nain?
Ah ouais, c'est vrai.
Ok.
Il joue un nain qui court, figure-toi.
Peter Jackson. Il marque ça sur Wikipédia? Ouais. Un nain qui court.
Un nain qui court. Peter Jackson qui apparaît aussi dans tous ses films comme Fantôme contre Fantôme, King Kong, en passant par Le Seigneur des Anneaux. Mais on peut difficilement faire un caméo plus discret que celui de Steven Spielberg dans Jurassic Park, Le Monde Perdu en 97. Vous l'avez ou pas?
Mais non.
Ah non.
Alors
non.
Là.
Mais j'ai
dans les hautes herbes. Il est dans les hautes herbes. Non.
Mais j'ai un caméo de Spielberg parce qu'il joue dans Les Gremlins, le premier. Mm. Et en fait, à un moment donné, t'as le père. Qui a des inventions dans les Gremlins, etc. Il va dans une sorte de foire à inventions et on voit Spielberg qui passe sur une petite voiturette dans le champ.
Putain. Ah, stylé.
Mais alors là, le caméo dans Jurassic Park, c'est vraiment une info tabzienne parce que c'est pour les connaisseurs. Il apparaît à 2h pile du film et il est dans le reflet d'une télé.
Putain.
Et il y a les images sur internet où tu vois,
c'est fait exprès.
Ouais, c'est fait exprès.
Ok.
Il apparaît dans le reflet de la télévision, un caméo que je qualifierais de tabzien.
Oui, bien sûr.
Ah, oui. Incroyable. Dans les caméos subtils, on peut aussi citer celui de Francis Ford Coppola dans Apocalypse Now, où il joue un réalisateur de film qui vient filmer la guerre, caméo sous forme de miroir et de dénonciation, puisqu'en jouant un rôle similaire au sien, il dénonce aussi la propagande de la guerre, un des sujets de son film.
Oui, c'est ce que je m'étais dit quand j'ai.
Est-ce que vous pensez que c'est mon analyse? c'est mon analyse ou je l'ai trouvé, à ton avis? Peut-être que je l'ai trouvé. Dans un autre
peut-être
style
que c'est ton analyse.
Peut-être que c'est mon analyse, je sais pas.
Analyse.
Dites-nous sur Twitter si c'est mon analyse.
Ou que tu l'as trouvé.
Dans un autre style de caméo, on peut aussi parler des auteurs qui apparaissent dans les adaptations cinématographiques de leurs œuvres, comme par exemple Stan Lee, à chaque fois dans les Marvel, qui apparaît dans toutes les adaptations Marvel, ou encore Stephen King, qui apparaît dans...
Stanley Kubrick. Oh putain.
Voilà.
Ouais. Déjà fait ça, Stanley Kubrick.
Stanley Kubrick, ouais.
Ouais, pas mal. Ouais.
Je sais pas pourquoi on l'aurait fait.
Je vais
fait.
Créer un mème et le sortir tout à l'heure.
D'ailleurs, merde. Stephen King. Stephen King qui joue dans le dernier Hit, même les nouveaux.
Exactement ce que j'allais dire.
Bah d'accord, bah écoute.
C'est pas grave. qui apparaît dans plusieurs de ses films, comme le dernier Ça, voilà, Apparition. Et d'ailleurs, Apparition, ça va te faire plaisir. Ça va te régaler, ah. ça. Parce que je sais que t'aimes bien les produits dérivés. Ça lui a valu une figurine Funko Pop.
Ah
de
bon
faire ça. un avis, sur, les, un avis sur les figurines pop.
Je les hais.
Elle est tout sur Twitter.
Il a joué aussi dans Cimetière et dans le seul film qu'il a réalisé, Maximum Overdrive. Et plus insolite aussi, on peut citer les caméos de dessins animés. Alors ça c'est bizarre, notamment chez Disney. On peut voir une statuette de La Belle et la Bête dans Aladdin, vous le saviez ça?
Attends, une statuette de La Belle et la Bête dans Aladdin, ouais, c'est marrant. C'est marrant. Dans Roger Rabbit, on voit Mickey, tout
ouais.
ça.
Ouais. Et encore, et Mickey, Dingo et Donald, encore plus bizarre, ils apparaissent dans la foule sans aucune raison au début de La Petite Sirène. Ah, vous saviez pas ça? Oh, je vous en apprends
pas
des
mal,
choses.
Pas mal, pas mal.
J'ai vraiment écrit, c'est à bien, non? Le mec, il écrit tout ce qu'il va dire. C'est bien, vous trouvez pas? Évidemment, il y en a pléthore et on voit qu'on pense à Xavier Dolan dans Mommy, François Truffaut dans Les 400 coups, Guzman Stone dans My Own Private Idaho, putain, j'ai du mal à parler, Oliver Stone dans Wall Street ou Michael Bay dans Armageddon, et j'en passe. Bonus aussi, même s'il ne s'agit pas vraiment d'apparition à proprement parler, John Landis a poussé encore plus loin le concept de caméo puisque dans chacun de ses films, il fait apparaître un personnage de son film précédent.
Ouais.
Le singe de Schnuck, il apparaît dans Un fauteuil pour deux. Les patrons du personnage de Louis dans Un fauteuil pour deux apparaissent dans Un prince à New York, etc.
Ça,
etc.
c'est pas mal.
Ouais, c'est fou ça.
Et il aime aussi faire jouer ses potes réalisateurs dans ses films comme Steven Spielberg dans Les Blues Brothers, David Cronenberg dans Into the Night, Sam Raimi et Dario Argento dans Innocent Blood et George Lucas dans Le Flic de Beverly Hills 3, figurez-vous.
Alors, voilà. Tu sais que c'était une idée, à la base, c'était une idée de Eddie Murphy pour ce que tu disais avec John Landis. En gros, dans Un fauteuil pour deux, il y a deux mecs qui sont à Wall Street, méga riches, etc. Ouais. Dans le film, et en fait, dans Un prince à New York, ils deviennent clodo, et t'as Eddie Murphy qui leur file de la thune, il fait un petit clin d'œil, et en fait, c'est Eddie Murphy qui a dit, ouais, ce serait pas mal de le faire ça. Et John Landis était là, genre, bof, pas trop. Et en fait, il l'a convaincu de le faire, en fait. Donc, ça vient d'Eddie Murphy.
Ah, et bah, bravo.
C'est double
César. Rendons à César. voilà, double, ouais, bravo.
Ça vous a plu? Moi, j'ai trouvé ça très agréable.
C'était une bonne chronique, hein.
J'ai pris du plaisir, moi.
C'était
bien,
non?
Très
top bien.
Vraiment, ouais.
Tu l'as écrit, ça?
Alors, comme vous le savez, Robin des Bois, Arsène Lupin ou encore Hudson Hawk, pour les puristes, sont considérés comme les plus grands voleurs du cinéma ou de la littérature. Du coup, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour qu'on se raconte nos histoires de vol.
Oh bah.
Des deux histoires de vol. Okay. Car j'estime qu'on a tous volé au moins une fois dans notre vie, que ce soit un petit truc ou un grand truc. Et rarement pour le redistribuer aux pauvres, voire jamais, dans notre cas. Du coup, j'ai fait un petit tour de table. Jérôme, est-ce que t'as le souvenir d'avoir volé un truc? On a tous volé au moins un petit truc.
Ah, moi, j'ai le souvenir d'un tout petit truc.
Ah.
C'était un paquet de chewing-gum au Monoprix de Rambouillet.
Ok.
Et genre, c'était à la pause déj, je crois. Et j'étais j'étais en seconde. Et je me souviens très bien, j'étais avec Thomas et Paul. Et du coup, on rentre dans le... Bah, parce que c'est quand même des prénoms plutôt rigolos. Non, mais voilà.
J'ai pas l'habitude de les entendre.
Ouais, voilà. Et genre, on était à la pause déj et on va au Monop, c'était à Rambouillet. Et du coup, on traîne dans le Monop. Moi, je fais mon kéké, je fais mon intéressant et tout. Et je prends un petit un paquet de chewing-gum, mais des fridents ridicules. Et je le mets dans ma chaussure, sur le côté, là.
Mais d'où vient cette envie de
faire son intéressant?
Ok, d'accord. Ouais.
Et je le mets sur le côté comme ça, et on se casse. Et vraiment, on passe les portes. Apparition du vigile, magique. Genre, vous allez me suivre, s'il vous plaît?
Oh non!
C'est pas
putain,
possible.
Il a grillé, c'est fou.
Pour un paquet de chewing-gum. Gars, on est allé dans le petit KGB là.
Mais attends, j'aimerais juste revenir un peu en arrière. Quand tu l'as volé, t'as fait exprès de te mettre dans un petit coin ou vraiment t'étais là au vu de tout le monde?
Non, je pensais.
Ok, d'accord.
Être dans un petit coin, mais
il l'a fait à la caisse, quoi.
Ouais. Non, parce qu'en fait, c'était les gros paquets de chewing-gum. On était vraiment où j'avais dû le prendre et retourner dans les rayons pour être au calme, tu sais, pour le planquer.
C'est grillé, ça.
Donc, voilà, c'est ça. Il a dû voir, en fait, le trajet complètement inhumain. Tu sais, dans le Monop, je fais, mais il fait ça, non, c'est pas normal d'aller partout comme ça. Et du coup, il m'a chopé comme ça et on est allé dans le petit bureau. Donc, mes deux potes avaient rien pris, donc ils sont barrés. Et ensuite, moi, il dit, bon, bah, la classique, où on appelle la police ou t'es daron, tu vois. Je fais, non, mon daron, il travaillait dans la même ville à Rambouille, la même ville que mon lycée.
T'étais en panique à ce moment-là ou pas?
Ouais, totalement en panique. C'était horrible. Et du coup, il est arrivé comme ça, posé. Mais tu vois, c'est pas un vénère, mon daron, donc il était genre, qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va faire?
Hein?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je veux dire, pourquoi t'as fait ça? Il essayait de comprendre et c'est resté entre nous. Ma mère l'a su que beaucoup plus tard.
Okay.
Mais j'étais vraiment, tu sais, c'est ce truc-là, toujours la présence d'une autorité, tu sais, du vigile et tout. Tu te dis, oh là là, tu te mets dans un truc. Bon,
ouais, grave.
J'étais tellement mal, tellement honteux surtout.
Alors quoi, quand t'es grand, t'as envie de dire, bah quoi, tu vas appeler la police pour un paquet de fridons à deux euros.
Ouais.
C'est ça que tu vas faire.
Là, beaucoup moins, j'étais plutôt dans ma répartie, c'était plutôt, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, mais je le répétais mille fois. Ah, tu sais, à un moment, on était bloqué. Tu sais, il était comme ça, non. S'il vous plaît. Et en fait, comme il voyait que je changeais pas de stratégie, il fait, bon gars, prends une décision, on appelle tes parents parce que, non mais s'il vous plaît, non mais arrête, ça fait 10 minutes, je te dis, c'est soit les. Donc à un moment, j'ai fini par lâcher le numéro de mon père.
Alors attends, qu'est-ce qui se passe à la
fin? Il est venu me chercher.
Donc, tu dois payer le paquet ou tu dois le rendre?
Il a payé le paquet, ouais.
Oui, d'accord.
Il a payé le paquet, si. Et donc ça, c'est vraiment le vol dont je me souviens, mais après, j'ai volé 1000 magazines de Scoot and Scoot,
des consoles plus. Après, alors.
Ouais, bien évidemment.
Ok, d'accord. Et tu t'es pas fait choper.
Mais ça, c'était pas pour faire mon intéressant, c'était juste parce que là, j'avais pas d'argent sur moi et je voulais vraiment lire le test de Banjo-Kazooie, tu vois. Et je fais, attends, je m'en fous. Et donc ça, la technique, c'était, j'avais mon sac à dos et je faisais genre, je lisais un peu le truc. Et tout d'un coup, pam, je coinçais le magazine entre mon sac à dos et mon dos.
Dans le dos, ah ouais.
Voilà, donc il fallait bien lester le sac à dos en soi, et bam, tu le coinçais dans
Arsène
le dos.
Arsène Lupin, quoi.
C'est ça, donc ça, j'ai des magazines de scouts et de jeux vidéo, c'était essentiellement ça, voilà. Moi.
C'est les deux passions principales, scouts et jeux vidéo.
C'était ça, bah j'avais pas de scouts, donc il fallait que je lisais des magazines.
Qu'est-ce qu'on lit dans les magazines de scouts? Genre le dernier moteur.
Ouais, en fait, c'est des gars. C'était souvent aussi des particuliers qui montraient leur scout. Tu sais qu'il avait peint qui est légende et tout. C'était trop beau. Les boosters et tout.
Oh, putain.
C'était.
Est-ce que tu découpais des images, tu les collais au mur et
non,
tout.
Non, quand même pas.
Okay. Guillaume, t'as déjà volé toi ou pas?
Figure-toi que oui, mais j'avais volé pour. En fait, quand on partait en tournée sur les aires d'autoroute. On faisait un jeu où on allait dans l'air d'autoroute et fallait voler le truc le plus débile. Et après, quand on revenait dans le camion, on était là, hey, regarde ce que j'ai volé et tout. C'était toujours de la méga merde.
Genre,
tu sais, alors ça commence, tu prends un mini caprice, genre de truc, tu vois, un peu de bouffe. Et sinon, une fois j'avais volé un CD de Musette, mais archi merdique, tu vois. Et sinon, le meilleur truc, c'était la BO de la biographie de Michel Drucker en livre de poche.
Quoi?
Ah,
du coup, après, par contre, tu le voles et t'es dans le camion, mais tu sais, personne n'en veut, tu vois.
Bah oui.
T'en
fais
rien. Tu sais, à la fin de la terre, on laisse dans le camion, je sais pas ce qu'on fait.
Mais du coup, il devient culte, le livre.
Ouais, du coup, ouais, ce genre de truc, quoi. Mais sinon, non, mais après, ça me fait un peu stresser le vol, je crois.
Ouais.
Ouais, je suis pas trop.
Tu t'es jamais fait choper, toi?
Non. Je me suis jamais fait choper. Non.
Ok.
Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu débile d'adrénaline aussi que tu vas chercher quand t'es jeune. Aussi, nous, entre potes aussi, on a volé un sapin de Noël.
Ah ouais. Pas mal.
Dans le village d'à côté, tu vois. On allait, on posait la caisse et tout, et on prenait le sapin, mais décoré, qu'on arrachait. Et donc, c'était débile, ça nous faisait marrer, quoi.
Mais il y a une technique dans les stations de service que le régisseur faisait, que j'ai jamais osé faire, c'est tu rentres, tu prends tes pâtes à faire au micro-ondes, là. Bah, tu prends, tu les cuis au micro-ondes, tu les manges. Tu sais, jamais personne qui te demande, en fait.
Ah oui.
Du coup, ils bouffaient gratos, quoi.
Ah pas
c'est
mal.
Tout. Y a jamais personne qui te dit, mais c'est payé, ça. Tout le monde s'en fout, tu vois. Et une fois que tu l'as, tu bouffes, puis tu te barres, puis voilà, c'est tout.
Je me souviens, une fois, ma mère, elle a volé des piles. Ça m'avait foutu grave la honte.
C'est trop drôle.
Non, mais tu sais, on était au Monoprix, puis tu sais, elle a mis des piles en dessous, et tu sais, on passait, je suis arrête, maman, s'il te plaît, et tout.
Oh non,
mais non, personne, personne.
Non.
Ah bon.
Elle volait des piles. Parfois, elle mettait des trucs, merde, pour faire les ongles, là. Comment ça s'appelle? Vernis,
ouais.
Elle volait du vernis, des piles et tout. C'est pas relou, ça?
Oui, c'est relou.
Très mauvaise influence. Je sais qu'elle va écouter les podcasts en plus.
Oh, c'est génial.
Je sais qu'elle m'a envoyé un texto. Genre, pourquoi tu dis ça?
C'est voilà. Totalement faux.
Alors, moi, je me souviens, des piles?
Moi, j'ai volé deux fois, figurez-vous. Et la première fois, ça m'a vraiment appris une leçon parce que c'était en primaire et il y avait un gars qui avait des paquets de cartes Olivier Tom. Mais il en avait vraiment plein. Fallait mettre un élastique carrément pour les contenir et tout. Et en fait, j'avais un pote qui s'appelait Gérard. Ça, c'est un nom marrant, Gérard.
C'est toi à nos âges.
Et Gérard, il fait, vas-y, viens, on les vole à la cantine et tout, tu vois. On se partage le butin et tout. Et moi, il m'avait un peu engrainé, je le suis, etc. Et on vole les cartes de ce gars. Et moi, je me retrouve avec, je sais pas, peut-être 70-80 cartes, ce qui est énorme.
Vous les volez comment?
En fait, il les avait laissés dans son manteau, et tu sais, quand t'es en primaire, tu laisses tes manteaux par
les
terre.
Salauds,
dans
la cour, ouais,
ça, c'est horrible, ça.
Non, mais attends, je t'ai dit que j'ai appris une leçon. Et donc, je rentre chez moi le soir, et le gars, toute la journée, il était là, genre, on m'a volé mes cartes et tout, tu sais, il était mal.
Oh non.
Mais oui, mais excusez-moi.
Bah, pour l'instant, je suis pas fier.
Ouais, j'étais pas fier. Et donc, je rentre chez moi, et j'ai toutes mes cartes Olivier Tom, etc. Et en fait, je passe une nuit horrible, je me sens vraiment mal. C'est la première fois de ma vie que je vole. Tu sais, ça me ressemble pas, je l'ai suivi le gars, etc.
Ça, et... c'est pas du tout une info tabzienne.
Non, pas du tout.
Non.
C'est Tabs Connard.
Non, mais c'est Tabs Connard.
Tabs
Connardienne.
Aucun effort, Tabs Connard.
Et donc, je me retrouve avec ces cartes. Et le lendemain, je vais voir Gérard, je fais, écoute, j'ai décidé de les rendre, je vais les remettre dans le manteau et tout. Il fait, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Garde-les et tout. Moi, je les ai toutes collées dans mon panini. Et tout, lui, il a zéro culpabilité.
Il avait bien dormi, le gars.
Lui, c'est un tapse connard. Gérard, à fond. Et bon, bref. Et en fait, moi, la cantine, bah, j'ai tout remis dans son manteau. Le midi, il a jamais su que c'était moi qui les avais remises et il a retrouvé ses cartes comme ça et j'ai rendu toutes les cartes Olivier Tom.
Et il devait être égaré quand tu les avais encore dans son manteau. Il dit, ah, finalement c'est dans mon manteau.
Ouais, bah oui.
Con.
Sinon il s'est dit mais attends mais il en manque quand même la moitié. qu'est-ce qui s'est passé quoi?
Ouais, il devient fou le gars.
Il dit mais pourquoi celle-ci et pas les autres?
Bon, on m'a déjà fait ça, on m'a volé des BD. Okay. Je me souviens de ça. Ah, sauf que la technique c'était genre je prête des Marvel à un gars tu vois avec qui je m'entendais grave bien. Un jour je dis bah vas-y tu me les rends lundi tu vois. Il m'a fait, ouais, il m'arrive un truc de ouf et tout. Je suis désolé. Alors que tu sais, on est en sixième, tu vois. Il m'arrive un truc de ouf. Mon père, il est rentré dans ma chambre. Et genre, je lisais mes Marvel et je faisais pas mes devoirs. Il a pris les Marvel et il les a déchirés, il les a tèges.
Oh,
je suis désolé. Et j'étais là, oh non, c'était mes préférés, tu vois. Et un jour, genre, tu sais, je sais pas, un mois après, je vais chez lui, tu vois.
Oh non.
Et je vois mes Marvel. Genre les mêmes. Et je dis, c'est à moi ça? Et il fait, non, je les ai rachetés.
Mytho.
Et du coup, je me suis fait baiser. Bah, j'aurais dû lui dire,
mais
donnez-moi.
Bah, dans ce cas, rends-les-moi.
Bah oui, c'est clair.
Ouais.
Pourquoi j'ai pas dit ça?
Parce que t'es probablement une victime.
Allez.
Je crois que c'était ça la raison.
Ah, moi, le plus gros vol dont j'ai été victime, ça, c'était horrible. C'était, bah, justement, je pense que j'étais au lycée. Je pense, deuxième première ou terminale. C'était un iPod.
Putain, ça fait mal ça.
Tu sais, mais les iPods, tu vois, c'était les premiers iPods où il y avait plus la roulette.
Ah.
C'était la génération d'après, beaucoup plus fin. Et tu sais, c'était tactile. Et pareil, entre deux cours, tu sais, les salles, elles sont ouvertes. C'était un c'était pas un gros lycée. Et du coup, toi, tu vas dans la cour. Et je me souviens, ensuite, je retourne en classe. Bah, bien sûr, tu sais, mon manteau, il était posé sur la chaise. Du coup, je fais les cours. Tout va bien comme ça. On termine la journée. C'était vraiment la dernière heure, je pense. Tu vois, c'était après la pause de 16h. Il me restait une heure. 50 ans en Yvelines. Je remets mon manteau. Je vais prendre le train. Et là, pour écouter un peu de musique. Là, je mets les mains dans les poches. Et je te jure, oh là là, la montée.
T'as une grosse pression là.
Oh la sueur, gars, c'est fini.
C'est horrible.
T'es comme ça. Avec le train qui part.
Est-ce que t'as eu le fin mot de l'histoire?
Non, j'ai jamais su qui s'est battu. Mais
c'est mal de bide et tout.
Oh, ouais, putain. Non, horrible.
Ah, ça saoule.
J'ai donc volé des cartes Olivier Tom et j'ai volé une deuxième fois, mais je pense que ça va être le gros coup autour de cette table.
Ah, aïe, aïe, aïe.
En fait,
j'ai volé un gosse.
Que j'ai encore, d'ailleurs. Ouais. En fait, on va aux galeries avec un pote, avec mon pote Flo. Et puis, à l'époque, c'était 1999-2000, un truc comme ça. C'était la mode d'une marque qui s'appelle Homecore. Ça vous parle ou pas?
Oui, bien sûr. Je connais cette histoire.
Ah, tu la connais, c'est ça?
Oui.
En fait, il y a trois logos. Il y avait une flamme, une croix. Ça vous parle, ça, Homecore?
Bien sûr, bien sûr.
Tu as parlé
de la veste.
Exactement. Et Homecore, ça coûtait hyper cher à l'époque.
Bien sûr.
Et puis voilà, et quand t'avais du Homecore, t'augmentais tes chances de peu près 60% pour baiser des meufs. Ce qui n'était pas non négligeable. Et donc, je me dis, il me faut.
J'ai lui qui était à moins 20.
Et donc, il me fallait un truc Homecore. Et donc, j'y vais et il y a une veste comme ça que j'essaye qui vaut 300 ou 400 euros, un truc comme ça.
Oh, non, mais
à l'époque, c'est immense, 300 ou 400 euros.
Oui. Mais même maintenant, hein.
Mais même maintenant, excuse-moi.
300 euros, une veste, Homecore, non, j'y vais pas, non.
Oui, mais 300 ou 400 euros, c'est fou, quoi. C'est le prix d'une console à l'époque. Tu vois,
non.
Et bon, bref. Et en fait, je l'essaye et tout. Et mon pote, il dit, mais attends, mais par rapport aux autres vestes, il n'y a pas le truc en plastique qui va sonner à la fin et tout, tu vois. Je fais, ah bon et tout. Il me fait, vas-y, bah, tu sais quoi, tu la mets, j'avais un trench. Il me fait, tu la mets sur ton trench et tu te barres, tu vois. Et je suis là genre waouh,
c'est un gros
objectif qui me lance là. Et là je me dis putain, et lui il commence à me chauffer, il fait vas-y vite fais-le, je te jure ça a marché.
Donc là vous êtes dans le magasin.
Non, il est dans le magasin et tout, et moi je suis dans la cabine d'essayage. Il fait regarde, tu l'essayes, tu mets ton trench par dessus.
C'est quoi ce vieux coach de vol? Mais fais-le toi.
Ouais,
non, vas-y, est-ce que tu peux faire? Mais fais-le.
Chelou là, GG Flo.
Mais bon, il me chauffe. Et donc je le mets comme ça et je me dis bon allez vas-y, je tente. Sur un coup de folie je tente.
Oh là là.
Et donc, je mets la veste en dessous de mon trench. Je sais que j'ai une veste à 300-400 euros en dessous. C'est énorme. Et je me dirige vers la sortie. Et là, il y a deux vigiles devant, etc. Genre, assez massifs, etc. Je me dis, putain, mais s'ils me chopent, c'est chaud, etc. Tu vois. Et donc, gros stress. Je passe, stress immense. Et là, je m'attends à ce que ça sonne. Je suis préparé à ce que ça sonne. Et je passe, aucun bruit.
Oh.
Aucun bruit, mais je me dis, comme pour Jérôme tout à l'heure, ils vont me dire, monsieur, suivez-nous. Ce sera la deuxième salve, tu vois. Et là, rien du tout, tu vois. Et là, je sors, et mon pote, on se regarde, et en fait, on se comprend en un instant, et on se met à courir de fou, quoi, tu vois. Et bah finalement, il s'est rien passé. Je suis passé. Et cette veste, mais je l'ai tellement mise.
Mais ils sont venus te chercher chez toi. Alors toujours rien. J'arrive chez WAM et là, paf, deux vigiles dans le salon. Tu le crois pas. Putain, donc t'as réussi ton coup.
Ouais, j'ai réussi. Et je l'ai tellement mise.
Et ta mère, elle t'a pas dit, elle sort d'où cette veste?
Non.
Oh ouais.
Bah, elle vole des piles. Ouais.
Genre, j'étais pas fier, elle a volé des piles. Attends, elle a volé une veste à 400 balles.
Mais vous, on est des voleurs dans la famille.
L'escalade entre mère et fils. Le lendemain, tiens, j'ai volé une caisse, alors tu vas faire quoi? Il y a quoi?
Et donc voilà, et donc cette veste, effectivement, ça m'a permis de serrer un petit peu. Cette
ah ouais?
Veste. Ouais, complètement.
60% plus?
Mais, ouais, 40.
Non, mais l'adrénaline, elle devait être ouf.
Non, franchement, ouais, quand je suis sorti, que j'ai couru, il y avait une adrénaline de dingue. C'était un saut à l'élastique.
Ah là là.
C'était fou.
Mais les gens, ils disent que plus c'est gros, moins les gens ils se doutent. Genre, si ah, tu voles un canapé chez Ikea, genre tu le prends, tu le portes et tu te casses, personne va dire vous l'avez payé? Personne.
Ouais, mais ça, c'était un consensus de ma part parce que
mais
le
bon,
mec
faut,
me disait...
faut avoir des grosses couilles pour faire ça.
Non, mais c'était un consensus parce que le mec il me disait il n'y a pas le truc en plastique, mais il aurait très bien pu y avoir, tu sais, les espèces de petits autocollants que tu mets à l'intérieur là pour que ça
se... Avant, il y avait ça et ça faisait une tache d'encre.
Ah ouais?
Du coup, t'étais baisé.
Ça explosait. Ouais, mais ça, c'est dans les billets, ça, quand
non,
tu
non,
voles.
Non, 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 c'est pareil, ouais.
Ok, très bien, je note. Qu'est-ce que t'as volé, toi, Aurélien?
Moi, rien, mais j'étais témoin de.
T'as jamais volé?
Non,
même
pas
un petit truc.
Il voulait être détective
non,
privé.
Moi, je, ouais, voilà, j'étais, en plus, en vrai, ça se voyait de ouf sur ma gueule. Faut dire que j'étais un clignotant à, il y a une merde, il y a une merde. Donc, je le faisais pas. Par contre, j'avais des potes klepto. Donc, souvent, je me retrouvais dans des équipes, j'étais en vacances, par exemple, je me rappelle, un rideau, de fer d'une enseigne style Monoprix, non je pense que c'était Carrefour Market, un truc comme ça.
Merci d'avoir précisé parce que j'aurais été confus avec Monoprix.
C'est important, non, mais c'est important. Et qui n'était pas tout à fait fermé, tu vois. Moi je me dis bon, il y a un mec qui est là sûrement en train de gérer ses affaires, tu vois, la nuit, hein, vraiment la nuit. Bah mes gars, non, ils se disent tiens, on va aller faire un tour. Ils rentrent dans le truc et à un moment ils me disent on va prendre tout l'alcool. Je fais quoi?
Wow.
Et pour le coup, à 4, ils ont vraiment, alors qu'on était en vacances, hein, dans un appartement qui avait rien à voir, ils ont retiré, je pense, 200 bouteilles d'alcool.
Mais non.
En 200. Une soirée. Et ils sont vraiment sortis, comme tu dis, plus c'est gros, plus ça passe.
Et donc, venus, ils ont chargé la voiture?
Même pas. Il n'y avait pas de voiture. On était à pied. C'était à une époque.
Ils faisaient des allers-retours.
Tout à fait.
Ah ouais, vous aviez la nuit, en fait.
Voilà.
Ouais, c'est.
Et moi, après, je suis allé, parce que je dormais pas avec eux dans cette maison, mais quand j'y suis allé le lendemain, il y avait des tonnes de bouteilles d'alcool. Et ils voulaient y retourner, parce qu'ils avaient dit qu'il y avait encore des trucs à prendre.
Mais ça voilà, c'est bon. C'est pas bien, mais c'est quand même un très bon souvenir de potes, oui, de bande.
Bah, ils faisaient des trucs comme ça.
Ouais, le gars, t'imagines.
Ils étaient un peu klepto à l'époque.
Tout à l'heure, tu m'as un peu lancé là-dessus avec l'iPod. Est-ce que vous êtes déjà fait racketter, les gars?
Ah oui, ça aussi, j'ai une histoire.
Beaucoup de racketter ici autour de la table ou pas?
Zéro.
Ah bon?
Je me suis fait.
Ah, mais j'aime lancer,
m'a proposé
mais...
de me raqueter.
J'aime lancer sur une histoire, mais vu que
j'ai eu. Si, moi, j'ai eu, moi.
Donc, bah, moi, j'ai envie d'entendre. Ah non, rien, moi. Rien.
Non, mais je sais plus si je l'avais raconté ici, mais en gros, quand j'étais en 6ème, je m'étais fait raqueter par des gars. Ma mère, elle travaillait dans,
ah,
les...
Je sais.
Ma mère, elle travaillait dans les bijoux.
Mais...
Et donc, elle avait plein de bijoux, etc. Et elle m'avait offert une. Un truc en plaqué or avec le signe du Verseau. Oui. C'est le truc que tu mets quand t'es petit, ça. Le pendentif, c'était le signe du Verseau.
Alors que t'es Capricorne, en plus.
Il y avait juste le Verseau de dispo. Et donc, il y a des gars qui me raquettent le truc et tout. Et donc, voilà, je suis vénère et tout. Et le lendemain, je vais au collège et il y avait un gars. C'est son grand frère qui m'a raquetté. Et je fais, attends, quand même, c'est ton grand frère qui m'a raquetté. Il peut pas me rendre mon truc et tout. Il m'avait sorti cette phrase qui est culte. Il m'avait fait, trop tard, il en a fait une boule d'or. C'est culte. Genre il a fait fondre mon pendentif, il en a fait une boule d'or. Et pareil que toi, j'aurais dû dire bah donne-moi la boule d'or alors. Qui me la donne?
Ah oui, c'est
la boule d'or, elle est là, qui me la donne la boule d'or?
Balance la boule.
Il en a fait une boule d'or.
Mais attends, mais t'as pas raconté comment ça s'est fait le racket?
Ah oui, alors en fait c'était une rue parallèle au collège, je rentre, je suis avec Gérard d'ailleurs. Et il y a il y a 4-5 gars qui arrivent qui eux devaient être en 3ème seconde, donc tu vois. Et le mec, il me fait, vas-y, fais voir ta chaîne. Je fais, bah attends, bah tiens, je te la montre comme ça. Non, mais fais la voir que je la regarde dans. Je fais, mais là, tu la vois bien comme ça.
C'est foutu ça.
Ouais, bah, c'est foutu ça. Je fais, gars, comme ça, tu la vois bien. Tu sais, il y a un petit espoir qui dit, ouais, ok, je l'ai bien vu, bon, allez, j'y vais. Et pour voir quoi, en fait? Un pendentif du Verseau.
Ah, t'es Verseau, hein, super. Voir si tu peux en faire une boule d'or ou
oui,
non,
voilà.
Quoi.
Et puis, il m'a fait, vas-y, bah, tu me la donnes. Je fais, bah non, quand même pas. Fait, tu me la donnes, sinon je te défonce. Bon, après, c'est fini. C'est le mot magique.
Après, c'est foutu.
C'est le mot magique.
Et puis, le non, quand même pas, c'est à aucun moment que ça marche. Non, quand même pas.
Ah bon, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de te la donner.
Par contre, j'ai l'impression que toi, tu t'es fait raqueter, Aurélien.
Oui.
Voilà. Je suis pas tout seul autour de la table.
Portable. Ouais, ouais.
Ah, téléphone portable?
Ouais.
Ah oui, donc il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, quoi.
Non, à Clapet, c'était il y a 1000 ans. C'était en, je sais pas, 2002, un truc comme ça, peut-être. Même pas.
C'est relou.
99. À l'époque, je traînais tout le temps. En fait, on se retrouvait tous devant la cathédrale d'Orléans. On faisait du skate et tout. Et des fois, on se retrouvait et on attendait les gens qui arrivent. Tu vois, des fois, t'étais tout seul. Et il y avait des grosses embrouilles entre des bandes qui venaient un peu partout et qui se retrouvaient aussi à la cathédrale et qui, tu sais, racketaient les gens, se tapaient. Enfin, il y avait un peu des embrouilles, tu vois. Cette fois-ci, j'étais tout seul. Il y a un gars qui est arrivé et à la base, il avait l'air.
Juste cette fois-ci, j'étais tout seul. Ouais, c'était une fois. C'était la seule fois.
Non, mais d'habitude, tu vois, t'attends 5 secondes puis t'as d'autres gens qui arrivent, tu vois. Et là, pendant 10 minutes, et comme un con, j'avais le téléphone de mon père, je crois, qui était un téléphone à clapet, qui était son téléphone du boulot, que mes parents me filaient parce que j'étais le seul à être assez éloigné de chez moi. Donc j'appelais pour dire faudrait que tu viennes me chercher à la sortie du bus. C'était vraiment des trucs nuls. Et je devais jouer avec, tu sais, avoir le serpent ou je sais pas quoi, enfin de la merde, vraiment de la merde. Et là il y a un mec qui arrive, qui s'assoit à côté de moi, qui avait l'air très gentil. Il me dit: "Ah mec, tu vas trop m'aider. Faut que je téléphone là, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone ?"
C'est drôle, ça.
Et tu sais, je suis là genre en fait, j'ai envie de te le prêter, je m'en bats les couilles, reste là, tu vois. Et là, il me sort un mytho de l'espace. Et tu sais, c'est les pires. Tu sais, j'aurais préféré qu'il me dise: "Vas-y, dis-moi ton téléphone, sinon je te mets une patate." Je sais pas, je serais parti en courant très, très sûrement. Là, il me dit: "Par contre, faut que j'appelle, mais tu sais, je vais appeler de l'autre côté là-bas." Je lui dis genre: reste là, comme ça, je te vois. Parce que j'ai pas envie de t'entendre ce que tu dises et tout. Et là, le gars m'a fait un bail, je suis dans un petit parc. Derrière la cathédrale, et en gros, il a pris le téléphone, il est rentré dans. Parce qu'il me dit: "Ouais, machin, il est là-bas, faut aller chercher le numéro, je sais pas quoi." Je fais: "Ok, si tu veux." Puis je dis: j'ai pas la foi d'aller le chercher, tu vois. Et en fait, il est rentré dans le bâtiment, et il y avait une autre sortie de l'autre côté du bâtiment. J'ai attendu 20 minutes, gros, j'étais comme ça.
Oh non.
J'étais comme ça. Et après, les potes qui arrivent, t'attends quoi? Un mec qui est parti avec mon téléphone, mais je pense que je l'enverrai jamais. Et là, ça, mon père, après, m'a juste dit, genre, il est où le téléphone? Le mec, il est parti avec.
Non, c'était un racket en douceur.
Ouais, il m'a embobiné, le frère. Ouais. C'est pour ça que, sur le coup, je me suis dit, bon, allez.
Avant d'enchaîner, je vais vous raconter une dernière histoire de racket. 2001, métro, Bobigny, Picasso.
Je pense que si après on en raconte une, il va en raconter une troisième. Là, il a monté d'un. Morel, il a raconté son histoire, il s'est dit, vas-y, en fait, j'y vais.
Ah, c'est bon. Allez,
mais figurez-vous, ça concerne pas moi, mais Mehdi, qu'on connaît ici dans ce podcast. Et donc, Bobigny Picasso, 2001, on se trouve dans le métro, et là, il y a deux gars. On a Foot Transfer dans les mains, un journal à l'époque qu'on achetait. Ronaldo en première page, Ronaldo vers Paris, le Brésilien, ça s'est jamais fait. Et donc, on est en train de lire Foot Mercato dans le métro, et là, il y a deux mecs qui entrent. Des gueules, mon gars. On dirait qu'ils sortent de prison directement avec des cicatrices sur la gueule, etc. Vraiment, ils font flipper, ils ont un gars et tout. Et là, du coup, tu sais, on se plonge dans le foot mercato un peu plus parce qu'on se dit, waouh, attention à ce qui va se passer. Et le gars n'arrête pas de regarder Mehdi, tu vois.
Ah, putain.
Et à un moment donné, il parle à Mehdi, il fait: "Toi, là, donne-moi ton portable." Ça va très vite. C'est très concis. Il n'y a pas de discussion au début, c'est très concis.
Pas de bonjour.
Donne-moi ton portable. Et donc, Mehdi commence à négocier, genre, mais non, mais attends, j'ai pas de portable. Si, je vois le relief, là, dans ta poche, tu me files ton portable et tout. Et Mehdi fait: non, mais attends, machin et tout. Et là, il fait un truc, j'en souviendrai toute ma vie. Il lève son, comme dans les films, il lève son pull et il y a un couteau sur son jean. Il fait: tu me le donnes tout de suite sinon. Et il monte le couteau comme ça. Donc Mehdi, là, il prend son portable, il sort. Et Mehdi, il avait un portable dégueulasse à l'époque. Vraiment, un des pires portables. Et le mec, là, il fait: c'est pour ça que tu me fais ton cinéma depuis tout à l'heure? Pour cette merde. Et du coup, ils volent pas son portable.
Mais
c'est vraiment de la merde, son portable, bravo. Tu vois. Et il y avait un gars à côté de nous, on était sur deux strapontins. Et
moi, je le veux bien.
Tiens, regarde, le gars. Non, il y avait, sur l'autre strapontin, il y avait un vieux, tu sais, genre, pour nous à l'époque, il devait avoir, je sais pas, 45-50 ans, tu vois. Et il était sur son ordi portable en train de travailler. Et là, les gars, ils sont passés à côté de lui, ils lui ont pris son portable, et ils sont barrés à Porte de Pantin et ils lui ont viré, ils lui ont volé son ordinateur portable. C'est terminé comme ça.
Mais tu sais que on n'aurait jamais l'aplomb, nous, de racketter. J'arriverai jamais devant quelqu'un. Hey, donne-moi ton téléphone. Non, ah bon.
Non, mais surtout, tu sais, il y a un truc où je me rappelle quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans, j'avais un peu quand même la peur du racket. Tu sais, j'allais dans le RER ou le métro, j'ai dit, putain, aujourd'hui, à mon âge, je me le dis plus, tu sais, on est dans la trentaine. Je me dis plus jamais que je vais me faire racketter maintenant.
Mais non. ça peut, en vrai.
Bah, carrément, tu vois, mais je me dis pas, je vais me faire racketter.
Non, c'est sûr.
C'est terminé.
Après, c'est pas le même traumatisme parce que tu te fais racketter par des carrières de 15 ans et t'as 40 ans, t'es là, bon. C'est relou.
Non, mais surtout qu'en plus, je suis sûr que rétrospectivement, quand on repense aux gars qui nous racketaient quand on avait 12 ans, bah, c'est des bouffons, quoi. Maintenant, avec notre âge de maintenant, on s'est fait racketter par ça, là? Par ces bouffons? c'est un peu relou. Alors, Aurélien, je le disais en début de podcast, Sacré Robin des Bois s'inscrit dans la grande tradition des films parodiques américains. Mais ce genre, si on peut appeler ça un genre de la parodie, ça vient d'où?
Eh bien, en fait, ça existe presque depuis la naissance du cinéma. En fait, il y a une théorie qui est née dans les gens qui étudient les genres, qui disent qu'en fait, la parodie arrive toujours à partir d'un moment où le genre est arrivé à la fin d'un cycle. Donc finalement, n'importe quel film de genre, n'importe quel style depuis le début du cinéma arrive toujours à un moment avec un type de parodie. Le plus connu, bien sûr, c'est le western spaghetti de Sergio Leone, que maintenant on considère finalement comme des vrais westerns, presque même les westerns préférés des gens. Mais à la base, c'est censé être une sorte de pastiche des westerns américains des années 40,
plus 50. Plus traditionnel, John Ford.
Et qui était censé être un peu plus violent, un peu plus de l'exploitation de western, avec une vision un peu plus où tout le monde est méchant. Alors que finalement, au début, dans les westerns, tout le monde est plus ou moins gentil, quoi. Ouais. Mais finalement, et d'ailleurs, c'est la toute première parodie. C'est le tout premier western de l'histoire du cinéma. En 1903, le grand braquage du train, qui est donc un film, tu sais, la fameuse image où on voit un mec à moustache qui tire avec un pistolet là, en mode muet. Et bah, 2 ans après, ils ont fait The Little Train, et c'était le même film, mais refait uniquement avec des enfants. Et c'est réputé comme étant la première parodie de l'histoire du cinéma en 1905, avec un mec qui s'est dit, bah, vas-y, on va refaire exactement la même chose, mais avec un faux train, un petit train, et avec que des enfants. Et peu de temps après, à partir de 1920, bah en fait, t'as directement déjà cette logique de parodie, de pastiche qui arrive. Et le plus connu de cette époque-là, qui va en faire des dizaines, c'est Laurel, Stan Laurel de Laurel et Hardy. Il va en faire plein. Il va refaire des films. Il va prendre par exemple des films de Rudolph Valentino ou des comédies musicales qui cartonnent à Broadway à cette époque-là. Et carrément, il en fait des vannes. Il détourne tout et il en fait quelque chose de rigolo avec le côté très slapstick de l'époque, un peu Buster Keaton où tout devient blague, quoi. Ouais. Et après, il y a le duo Abbott et Costello qui fait pareil. Et eux, ils se mettent dans le genre de films d'horreur. Donc ils vont faire que Abbott et Costello rencontrent Frankenstein. Ouais. Là, là, là. Et il y a déjà ce délire de faire des jeux de mots. Parce que par exemple, Stan Laurel, un des films les plus connus qu'il va faire, je crois, dans les années 30, il s'appelle, je l'ai marqué, Dr. Pickle et Mr. Pride.
Ouais.
Et en gros, il fait des vannes avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En fait, c'est tous les films un peu d'horreur des années 30, les Boris Karloff, machin truc. Bah, en fait, souvent, ils font, ils brisent le quatrième mur. C'est Abbott et Costello qui rencontrent Boris Karloff plutôt que les personnages de films d'horreur. Bref, c'est vraiment un truc c'est un genre qui devient un style en soi dès les années 20, les années 30. Et après, dans les années 60, finalement, il y a Casino Royale, qui va changer pas mal de choses, le film qui parodie James Bond, alors qu'en fait on est dans le début de James Bond. Ça fait même pas 3-4 ans que James Bond existe et ils font déjà un énorme film parodique avec David Niven qu'on retrouve dans La Panthère Rose, qui le premier film est un film un peu comique, une comédie d'action normale, mais le deuxième, quand l'inspecteur s'en mêle avec qui est donc une fausse suite qui s'appelle le Shot in the Dark en anglais avec Peter Sellers, là ça devient carrément de la parodie où il y a Cato qui est là, qui est censé être une blague, enfin du frelon vert, et à chaque fois qu'il rentre chez lui il y a Cato qui essaye de le tuer. Donc ça devient n'importe quoi et ça devient de la parodie de films de kung fu et de tout, des fois ça parle dans tous les sens. Et Black Edwards, qui donc fait la Panthère Rose à ce moment là il a pas mal de films qui sont à moitié des films d'exploitation. Genre, il fait par exemple la grande course autour du monde, The Great Race, qui à la base est un vrai film, qui va devenir d'ailleurs Les Fous du Volant en dessin animé. Ouais. Ce film qui est une énorme production avec Peter Sellers, avec Tony Curtis, avec tout ce que tu veux. À partir de la moitié du film, ça devient une parodie de deux films hyper connus de l'époque. Et donc Black Edwards, il fait grave ça dans les années 60. Et après, dans les années 70, arrive Mel Brooks, et lui, vraiment, il va complètement remettre les pendules à l'heure. Pendant toutes les années 70, tous les ans, il sort un film qui est une parodie d'un style, quoi. Mmh. Il fait Blazing Saddles, c'est les westerns. Il fait Frankenstein Jr., c'est les films d'horreur. Il fait Anxiety, et c'est genre tous les films Hitchcock, suspense. Il fait Silent Movie, qui est quand même un film où ça parle pas pendant 1h30, et ils font que des délires de films muets, et ils se relancent en plus. Il y a plein d'inventions pour faire des vannes alors que ça parle pas, tu vois. On est en 74, c'est en noir et blanc. Ouais. Tu sais, plus personne regarde des films comme ça, tu vois, c'est assez fou. Donc lui, il va vraiment tout remettre à plat. Et après, on arrive début 80, et c'est là qu'on a les gros trucs qu'on connaît, donc les As, bien sûr, avec Airplane qui sort en 80, et après, tout va changer, où on va voir Top Secret, Hot Shots, et Mel Brooks qui se mêle à ça dans les années 80 et début 90. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a aussi, bien sûr, les Monty Python, qui avaient vraiment ce type d'humour dans les années 70, où c'est finalement un peu de la parodie aussi. Et John Landis, qu'on a cité, qui a aussi fait pas mal de films dans ce type, avec beaucoup de sketchs, où c'était des reprises de films connus. Dans les années 80, on peut aussi citer Steve Martin et Carl Reiner, qui vont faire le film en français, je sais plus comment ça s'appelle, mais Les Cadavres pour pas des costards, je crois, c'est un truc comme ça.
Ouais, c'est un truc comme ça.
Qui est un film genre qui reprend les codes du film noir, mais on a vraiment l'impression que c'est uniquement des extraits de film noir dans lequel t'as Steve Martin qui est dedans. Donc c'est encore un autre délire, c'est encore plus fou. Et après les années 90, bah on ouvre, bah ça devient la foire en fait. Il y a cinq films. Dès qu'il y a un film qui marche, trois mois après, t'as une parodie quoi. Donc ça devient un énorme truc. Ce qui est peut-être le plus drôle, c'est Scream, parce que Scream en fait c'est une parodie de Wes Craven, de ses premiers films, où en fait il fait une parodie des films d'horreur et ça parle vachement, c'est hyper méta. C'est un des premiers films à parler des films d'horreur à l'intérieur et où on voit des films de Wes Craven qui est le réalisateur à l'intérieur du film. Et le plus fou, c'est que ce film normalement il devait s'appeler Scary Movie, qui sera la parodie de Scream, qui est déjà une parodie. Ouais. Et Scary Movie vont devenir une série à part entière, hyper connue avec un type, donc ça devient fou. Et après bon bah ça s'arrête plus. Et finalement, on fait les parodies et le type de cinéma, comme tu disais, je pense qu'à partir du moment où tu kiffes le cinéma et que tu kiffes les références, bah la parodie, elle est quasiment automatique en fait. Mmh. Les seuls genres qui sont pas parodiés, c'est les genres que les gens ils aiment pas. À partir du moment où t'as des références qui sont appréciées ou qui te font rire ou des films qui cartonnent, bah la parodie, elle est quasiment automatique.
Scary Movie, c'est un des rares films que je suis allé voir deux fois. Tu vois.
Ah ouais.
Ouais, je vais pas souvent deux fois au cinéma. Tu vois, j'attends qu'il repasse, mais quand c'était sorti à l'époque, tu vois, c'était ça me rappelait tout ce que j'avais vu depuis un moment déjà.
Ouais.
Et genre où c'était tout le temps, tu vois, tu parlais de quatrième mur, il y avait une vanne dans Scary Movie qui m'avait rendu ouf vraiment à l'époque, c'est quand ils sont posés dans la maison, donc ça parodie Scream, et tu sais, il y en a qui un couple qui s'apprête à baiser, machin et tout. Donc ils sont posés sur le lit et je sais pas, ils s'embrouillent. Et t'as la meuf ou le mec qui dit ouais, non mais on n'est pas dans un film là, OK. Et fait si. Quoi? Si, mais carrément, on est dans un film, là, t'as Steph et tout, et là, ça dézoome.
Ouais, ouais.
Et tu sais, t'as tout le monde au cadre et tout, tu vois, toute l'équipe, et j'étais comme ça, j'étais, la vanne, la master vanne et tout, j'adore et tout, mais elle m'avait tellement marqué, c'était génial, tu vois, j'ai rarement vu le quatrième mur comme ça à mon âge et tout, je sais pas quel âge j'avais, j'étais ado, tu vois, mais j'étais, c'est trop bien,
c'est fou. Et une des plus grosses arnaques d'ailleurs qui est expliquée comme ça, c'est Gremlins 2. Gremlins 2 que Joe et Dante a réussi à vendre à Warner Brothers en disant moi je veux faire un film style cartoon. Ils ont dit bah non, on va pas te lâcher les Looney Tunes. Il fait ok, bah je fais Gremlins 2 si vous voulez, par contre j'en fais une parodie. Ils ont dit je sais pas, et en fait il a parodié plein de styles dedans. Il y a Christopher Lee, il a repris des personnages, il y a des trucs et tout, et il y a ce truc du quatrième mur où en plein milieu du film le film s'arrête et t'as des gremlins qui sont en train d'attaquer la salle.
Hulk Hogan.
Et il y a Hulk Hogan qui est là et qui dit en fait ils sont en train de foutre le bordel. Et là tu te retrouves en fait comme si t'étais dans la salle du film. Et t'as les mecs qui disent non mais ils ont coupé le film, y a plus personne qui peut regarder, c'est n'importe quoi. Ils disent j'ai pas envie d'y aller. Attends, j'ai peut-être une solution. Et ils vont dans la salle comme si t'étais dans la salle avec. Là il y a Hulk Hogan qui gueule comme s'il gueulait au projectionniste. Il fait c'est bon maintenant, le film peut repartir, les gremlins vont s'arrêter. Et là ça repart.
Non, en plus c'est vrai que dans Gremlins 2 il y a plein de rêves parce que là de mémoire il y a Rambo. Parce qu'à un moment donné, il met son bandeau comme Rambo, le Mogwai. Et il y a aussi Dracula.
Ouais, parce qu'il y a Christopher Lee qui joue. Et il y a énormément de personnages qu'il a récupérés de films. Donc il y a la mouche à un moment, il y a une énorme araignée. Il y a plein de références à ses propres films aussi dedans.
À ton avis, Jérôme, qu'est-ce qui est le plus addictif, le crack ou les anecdotes de films croustillantes?
Les anecdotes de
bien
films
sûr,
croustillantes.
Bien sûr, j'attendais que tu répondes
ça.
Bien sûr. Et bien écoute, tu vas être servi parce que j'en ai pas mal sur Sacré Robin des Bois.
Ah,
ça va te régaler. Le rôle principal dans ce film...
Ça va te régaler. J'aimerais bien isoler cette phrase et je vais la mettre en sonnerie. Ça va te régaler. Quoi, c'est une question ou c'est une affirmation? Je comprends pas. Où tu te places? Non mais, ça va te régaler.
C'est une affirmation, je crois. Le rôle principal dans ce film est donc interprété par Cary Elwes, acteur que l'on a pu voir dans Princess Bride, Dracula, Menteur, Menteur, ou encore Twister.
Et Saw.
Et Saw, exactement, c'est vrai. Saw.
Le premier.
Mais c'est pas ça l'anecdote, figure-toi. Parce que ce que je viens de dire n'est pas forcément tabzien. Ce qui est tabzien, c'est que le jour où Mel Brooks l'appela pour lui proposer le rôle, il raccrocha pensant que c'était une blague d'un pote.
Ça, c'est tabzien, ça.
Ça, c'est tabzien, parce que Mel Brooks est là, arrête, t'es relou, puis il raccroche. Bon, c'est tabzien. Alors, un qui n'a pas raccroché, mais qui, lui, s'est permis de dire non à Mel Brooks, c'est Hulk Hogan, justement, on t'en parlait juste avant, Hulk Hogan. Il lui a été proposé de jouer le personnage de Little John, mais il a répondu pas intéressé. Bah voilà, c'est voilà ce qu'il a dit à Mel Brooks. Ouais. Et je rappelle que par la suite, Hulk Hogan a joué dans un film s'intitulant Monsieur Papa, dans lequel il interprète un Papa Noël armé d'un bazooka. C'est un choix. C'est un choix de carrière. Alors, depuis tout à l'heure, on dit Mel Brooks, le génie, etc. Ah non, putain, j'ai écrit ça, on l'a même pas dit. Je présumais qu'on allait dire Mel Brooks, le génie.
Ah,
c'est
c'est
un génie,
c'est un génie.
Bon, voilà, bah, depuis tout à l'heure, on dit Mel Brooks, le génie, etc. Mais figurez-vous que l'idée de ce film vient derrière... Ah, ça, j'adore cette anecdote. Ah, ça va vous régaler.
Ah bah oui, avec plaisir.
Oui, donc, figurez-vous que l'idée de ce film, Sacré Robin des Bois, vient d'un garçon de 11 ans qui s'appelle Jordan Chandler. Après avoir vu le Robin des Bois avec Kevin Costner, il fait part à son père de pas mal de moments qui pourraient être parodiés. Ce père s'appelle Evan Chandler, et à l'époque, Evan Chandler, c'est le dentiste des stars à Hollywood. Lors d'un soin, il fait part de cette idée au scénariste Jack Shapiro, avec qui il va écrire le scénario en compagnie de Mel Brooks. Ce qui fait qu'il est devenu dentiste slash scénariste. Voilà l'histoire. Mais attention, c'est pas fini, c'est encore plus fou après. Ce qui est encore plus dingue, c'est que cet enfant de 11 ans, Jordan Chandler, a été supposément violé par Michael Jackson. C'est la fameuse affaire Chandler, un des enfants qu'on a le plus vu aux côtés de MJ, une affaire qui a fini sur un drame, puisque Evan Chandler, le dentiste, donc le père, s'est suicidé il y a quelques années.
Oh là là, mais attends, mais là, c'est
horrible. La fin d'info est badante, complètement badante.
Ça va vous régaler.
Ça part en viol, en suicide.
Ça va vous régaler.
Oui, c'est vrai que j'ai dit ça au début, ça va vous régaler. Ça vous a régalé ou pas?
Ah, c'était super.
Oh merde.
Ok. Toutes les chansons du film ont été écrites par Mel Brooks.
Ouais,
je ramène un peu de joie.
Il est fort.
Ce qui n'était pas compliqué pour lui, puisque c'est aussi un de ses grands talents. On se souvient de la comédie musicale, les producteurs. Par exemple, il a l'habitude d'écrire des musiques pour les pièces ou pour les films. Figurez-vous que Sean Connery était enclin à l'idée de s'auto-parodier dans le film, lui qui joue dans le Robin des Bois de Kevin Reynolds. Ah, ouais. Il souhaitait jouer dans le film à une seule condition, être déguisé en femme. Mel Brooks était OK, jusqu'à ce que Sean Connery demande $1 million pour une apparition de quelques minutes à l'écran.
Il est génial.
Terminé. Pas de Sean Connery dans le film.
J'aime bien parce que ça fait vraiment, tu sais, ça avance. Bah, nickel. OK et tout. Bah, PAT, on tourne dans 2 semaines. Ouais, carrément, c'est 1 million et tout. Pardon? Deux. C'est-à-dire. Non, mais la coupe, en fille, c'est ouais, OK. 1 million. Bah, c'est-à-dire, je comprends. Bah, non, c'est fini. On arrête là, fin.
Je crois que c'est comme ça que c'est passé en vrai.
Tu l'as vraiment raconté, ça avance. Et donc voilà, tout le monde était d'accord. Il a demandé 1 million. Tout le monde n'était plus d'accord. C'était fini.
Ça aurait été relou que tu demandes 1 million pour le podcast là. Je suis OK. 1 million.
Ouais, vas-y, envoie-moi la liste des films préférés. OK. Je t'envoie la liste, je fais d'accord. On est à Sèvres à tout à l'heure. Bah, je suis à tout à l'heure. 1 million, c'est ça.
L'acteur Richard Lewis, que les fans de Curb Your Enthusiasm connaissent bien, joue dans le film Le Prince John.
Oui.
Et le tournage fut pour lui. D'ailleurs, il y a une très bonne vanne dans ce film-là, on a oublié de la mentionner tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois, il a une mouche qui change de côté à chaque fois dans le film. C'est assez drôle. Et le tournage fut pour lui un enfer, puisque durant la production, il était atteint d'une hépatite A.
Oh merde.
Ce qui l'obligea à jouer toutes ses scènes avec plus de 40 degrés de fièvre. Quand tu reverras le film, tu diras qu'il a 40 degrés de fièvre à cause d'une hépatite.
Bah, le prince John.
Ah ouais.
Et il parvint à terminer ses scènes avant de passer quelques jours à l'hôpital à la fin, complètement exténué.
Oui, pareil en VF. Franchement, en VF, il faut absolument que vous le trouviez parce que toutes les voix, elles sont absolument géniales. Et ça, je crois que c'est la voix de De Niro, mais un peu poussée.
Ah ouais?
Ouais, il me semble.
Ok. C'est
mais tu sais qu'il est très, 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 très joueur, quoi.
C'est quoi une hépatite A?
Ouais.
Vous le savez ou pas, non?
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ok. Ouais.
Mais
c'est grave.
C'est cool que tu saches. Et enfin, Sacré Robin des Bois fait partie de ces films qui ont connu un succès modeste en salle avant de faire un véritable carton lors de la sortie en VHS, devenant peu à peu un film culte pour beaucoup de gens nés dans les années 80. Voilà, c'est bientôt la fin de cet épisode, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, Jérôme, le dernier film que tu as vu au cinéma.
Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Top Gun 2.
Ah, bravo.
Ouais, bravo. J'ai l'impression que t'aimes bien ce film.
Non, mais en fait, figure-toi, je l'ai vu 3 fois au cinéma, justement. Tout à l'heure, tu parlais des films qu'on a vu plusieurs fois.
Ouais.
Parce que les circonstances font que j'y suis allé avec d'abord tout seul, avec des potes, puis après tout seul, etc. Machin et tout. Et j'ai adoré, quoi. C'est trop bien.
Mais alors, tu vois, je pense que je vais aller le revoir une deuxième fois.
Pas mal. Ouais, mais tu l'as vu dans quelles conditions la première fois?
En avant-première.
Non, mais genre sur un grand écran, j'imagine.
Non, un tout petit écran, c'était D'accord. sur une téloche.
Okay.
C'était très bizarre, c'est une avant-première particulière. C'était à Normandie, à l'UGC Normandie.
J'ai connu les avant-premières dans des cinémas vraiment pas ouf.
Non, 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 elle était, c'est l'UGC Normandie, donc c'était ouais. fat. Et il y avait juste, bon, le tome n'était pas là, mais il y avait une petite vidéo où il ah. s'était filmé lui-même, tu sais, en,
ah ouais.
en face, quoi. Et il expliquait qu'il était très content de ce projet. C'était cool parce que il expliquait vraiment sa. Sa philosophie du cinéma et qu'il y a des films, il faut les voir en salle et point barre. Et il disait, on l'a fait pour ça et tout. Et t'es là, t'es.
Ah, joli.
Toi, t'es là, t'es. Mais gars, mais je te suis à 1000%, mon gars. Tu sais, mais il s'était stylé, c'était une, deux petites minutes comme ça. Il disait, bon, voilà, c'est. En fait, les gars, nous, on taffe pour vous donner du spectacle, quoi. Et c'est vrai que quand tu regardes des énormes blockbusters qui sortent sur des plateformes et que tu regardes sur ta télé, finalement, ça a quand même une saveur différente. Et que lui, je pense que le jour. Enfin, je sais pas ce qui va se passer le jour où on va le voir arriver sur une plateforme, mais je pense que ça va être un salaire qu'on n'aura jamais, parce que pour qu'il aille sur une plateforme, je pense que tu sens qu'il est tellement en kiff de construire des films pour que ce soit dans des salles, tu vois, que je suis pas sûr qu'on le voit sur une plateforme un jour, ou quand c'est juste quand il pourra plus faire ses cascades,
ouais,
et il dira, vas-y.
C'est un peu comme les youtubeurs qui disent vous êtes pas prêts quand une vidéo va sortir et
ouais, c'est
genre,
ça.
Ils annoncent du lourd et tout.
C'est ça. Okay. Mais, c'est exactement ça.
Ouais, d'accord. Voilà,
okay. Bref.
Dans cette et vidéo, attends, on va se planquer chez Castorama et tout. Oui, attendez, voilà, vous allez voir. Vous êtes pas prêts, les gars. Piscine à boules géantes.
Je fais ça
tout.
Pour que ce soit visible sur YouTube et tout. Est-ce que il y avait des cadeaux à l'avant-première
Ouais, alors moi, je suis pas. En fait, je suis plus trop. J'aime plus trop les goodies. Alors, j'ai ramené la casquette, mais en fait, ça me fait chier à ces avant-premières là de voir. Tu sais, t'as 800 sièges avec 800 tote bags avec 800 bouts de plastique. Tu vois, j'étais à l'avant-première de Batman. Il y avait une sorte de laser dégueulasse, tu sais, où tu pouvais. Alors c'est rigolo, mais en fait tu vas le foutre à la poubelle. Enfin,
bah oui.
C'est trop de pollution, tout ça. Ça me. En fait,
après pas mal la casquette Top Gun.
Ouais, ça je l'ai. Mais je trouve quand même que, enfin justement, genre mais je suis en plus je suis vraiment pas ultra écolo, mais ça me. Enfin c'est des trucs où on se dit putain allez on vient voir juste un film. Enfin tu vois tous les trucs. Il y a rien n'est pris. Il y a des autocollants à la merde. Tu vois. Enfin il y a. Tu sais pas, c'est
après,
trop.
Après, si les cadeaux, c'est des PS5, le carton est plastique, tombe les couilles.
Ça, c'est bien.
Mais d'accord.
aussi, ça, c'est bien. Donc, il y avait une casquette, ouais. Il y avait une casquette, un poster, je sais plus quoi. Mais moi, j'ai pris la casquette.
Parce qu'en général, les goodies dans les avant-premières, c'est pas si ouf.
C'est pas incroyable.
Mais pour ce film-là, je trouvais ça cool d'en avoir parce que pour moi, il est instantanément culte, ce film.
Alors, maintenant, c'est. En revanche, quand il y a des goodies, puisque maintenant, je te suis, bien évidemment, quand il y a des goodies de. Textile, c'est vrai qu'en regardant tout tes, enfin, en te suivant toi et tout, tu te dis que quand même, là, si je la garde, cette casquette.
Elle peut valoir très cher plus tard.
Ouais, c'est ça, en fait. Et surtout que c'est son premier film qui a dépassé le milliard de dollars.
Ouais, c'est fou.
Au box-office. Donc, incroyable. En fait, pour lui, c'est vraiment un film de ouf. Et du coup, maintenant, quand j'ai des petits t-shirts ou des trucs, quand je vois le JB qui achète des, qui prend de tels t-shirts de machin, bah, je dis, bah voilà, mes 67 ans, j'aurai ma casquette et je ferai JB, toi qui m'entends. Dans le ciel, parce qu'il serait mort. Je vais, regarde, cette casquette, elle vaut maintenant 23 euros. Donc, effectivement, maintenant, les goodies que je peux porter, en fait, je les garde.
Non, mais il y a des trucs que moi j'ai déjà acheté, des films que je suis allé voir, etc. Ça veut dire que dans le passé, il y a des gars qui sont allés, je sais pas, à l'avant-première du premier Indiana Jones,
ouais.
qui avaient des goodies et qui sont dit,
c'est vrai, très bon contre-argument.
Ouais, c'est dur.
Et bon, ça a existé, ça a fini à la poubelle, tout
mais
ça.
Mais nous, en général, on a plutôt une Vita Coco et des Skittles, quoi.
Ouais, quand on va c'est très décent quand il y a juste une petite bouteille d'eau.
T'es là, bon, bah. C'est pas les bonnes places, apparemment.
Mais c'est vrai, t'as totalement raison sur la casquette, je vais la garder, ouais.
Ah mais t'as bien raison de la garder. Tu sais que, figure-toi que la casquette Top Gun, j'ai essayé de la trouver sur eBay, sur Vinted. Ces bâtards la vendent 60 euros déjà. T'as un trésor entre les
La nouvelle là
Ouais, la nouvelle. Top Gun Maverick.
Maverick, ouais.
60 euros minimum.
Tu l'as gardé celle de SOS Fantôme le dernier là? On avait une casquette, tu te souviens?
Je sais plus où elle est.
Ah bah moi je l'ai gardée.
Ah ouais
mm-hmm.
Ok, pas mal.
Mm-hmm. Ouais,
mais elle vaut moins que Maverick. Je
non,
crois.
Non.
Ah ouais, non,
je me suis renseigné.
Elle était bonne. Ah, elle vaut de l'argent?
Ouais, non, je sais pas.
Voilà.
C'est un bluff, c'est un énorme bluff. J'ai la casquette par
elle
contre.
Elle vaut rien.
Deux balles.
Tiens, c'est quoi dans ce genre de truc de collection, c'est quoi le truc le plus cool que tu possèdes? Je me souviens, alors, je suis déjà venu chez toi, je me souviens d'un truc très cool, c'était un jeu Mario Kart japonais que t'avais trouvé au Japon.
Ah mais oui, c'est
que
ça.
C'est pas ta meilleure pièce.
C'est une bande originale. Enfin, j'ai une bande originale japonaise de Super
oui,
Mario
voilà,
World.
C'est ça, ouais.
Oh, bien
ouais, c'est
parce
mal,
que
ça.
Super Mario World, c'est un peu le jeu de ma vie aussi. Et du coup, je l'avais, je l'ai acheté là-bas au Japon, à Tokyo, sous blister, 120 balles.
Pas mal.
Et à côté, j'ai failli craquer, je me suis dit non, c'est vraiment pas raisonnable. Parce que ça, c'était mon deuxième choix. Mon premier choix, c'était la bande originale de Donkey Kong Country 2,
voilà.
qui était à 1300 euros.
Oh. What?
Et vraiment, j'ai réfléchi 10 minutes. Parce que, à l'époque.
1300 euros.
Et à l'époque, j'avais un peu plus de moyens. Tu vois, j'étais machin, j'avais travaillé à Canal, tout ça. J'étais bon. Je peux le, en fait, c'est dans mes cordes. Et je fais méga, non, là, t'es en train de faire n'importe quoi. Mais ouais. Je me souviens, j'étais avec Tom et Anis, à l'époque, d'ailleurs. Et vraiment, je suis resté devant la vitrine pendant 15 minutes à faire qu'est-ce que je fais. Parce que pareil, Donkey Kong Country 2, pour ceux qui connaissent pas, bah, déjà, c'est honteux. Et vraiment, la bande originale, c'est genre, c'est un chef-d'œuvre.
Dans quelles conditions t'écoutes la bande originale de Donkey Kong Country 2?
En y jouant. Mais de temps en temps, une fois par an, je me refais des musiques avec des potes. On s'envoie des liens YouTube. Vous pouvez les trouver sur YouTube. Mais du coup, je me suis rabattu sur Super Mario World qui voulait
dire
quelque
chose. Mais alors, combien écoute aujourd'hui cette bande originale de Donkey Kong à 1300.
Ah,
ça se trouve, elle vaut 2-3 000.
Hein, parce qu'elle est ultra rare. Et tu sais, c'était vraiment un tout petit CD, parce que celle de Super Mario World, c'est un double CD que j'ai jamais ouvert. Je l'ai laissé sous blister.
Ouais,
et
raison.
Qui est pourtant d'occasion. Parce que les Japonais, en fait, ils reblistent tout. C'est trop. T'achètes un truc, t'as l'impression que c'est neuf. En fait, non, c'est eux qui reblistent. Et ça. Et sinon, j'ai une borne d'arcade.
Vandamme.
Ouais. Faites maison.
C'est pas mal tout ça. Hein.
Ça, c'est beau ça.
Guillaume a un flipper Star Wars chez ses parents.
Ouais.
Ça, c'est alors, beau, ça. Qui date de. C'est quoi l'histoire?
Bah, le premier flipper Star Wars qui existait.
Ah donc ouais, de toute la Terre.
Ouais.
Je te l'appelle, comment
premier,
tu le dis?
Non. Je te jure, c'est vrai.
Quoi?
Non, mais genre la première. Non,
mais attends.
Parce que maintenant, il y a des nouveaux.
Il fait des vannes.
Les premiers épisodes, quoi. C'était le Star Wars des années. Il a été édité en.
80.
Ouais.
Mais non.
Mm-hmm.
Mais il vient d'où?
Bah, attends, mais mon père, il a alors, voilà, mon père, il conduisait les métros, d'accord? Il part à la retraite.
Mon père était chef-op sur Star Wars. D'accord!
Voilà,
d'accord, ok, bah, d'accord.
Et voilà. Et en fait, non, il me dit, j'ai un pote qui répare des flippers et tout, je vais acheter un flipper pour la maison et tout. Je fais, ah, trop bien. Il achète un flipper des années 50, tu vois, un truc, bowling ou je sais pas quoi, bon, pas mal, tu vois. Je fais, ouah, il me saoule celui-là, je vais le changer. Il en achète un autre et tout, pareil, un truc un peu des années 50 et tout. Il dit, oh, ça arrête pas de tomber en panne, c'est trop vieux. Et il m'appelle un jour, il dit, ouais, j'ai changé, j'en ai pris un peu digital et tout, c'est mieux là. J'ai dit, t'as pris quoi? Le truc là, comment ça s'appelle, Star Wars ou je sais pas quoi là. J'ai dit, quoi? C'est le flipper de Star Wars. Attends, on a un flipper Star Wars à la maison là? Fait, ouais, j'ai pris le flipper Star Wars. Putain. Le truc, il est archi coté de fou. Il est trop bien, il est
mais
dans
alors
le garage.
Pourquoi tu le récupères pas chez toi, ce flipper?
Bah là, déjà, parce que c'est pas moi qui fais les meilleurs scores dessus et ça me fout la haine.
Oui, d'accord, mais c'est pas la question. Pourquoi tu le mets pas chez toi?
Faut de la place quand même, hein, non?
C'est dans le garage, bah ouais, déjà, c'est gros quoi.
C'est gros.
Ouais,
hein.
Tu peux le placer dans ton salon, ça, non?
Non mais d'accord, mais attends, mais il y a toute la famille qui en profite, il y a pas que moi dans la famille.
Oui, mais bon,
bah, bah oui, bah j'ai l'autorité là-dessus, mais bon
oui,
quand même,
mais
bon.
Génial, compris.
Ah ouais, ça tue. Et je t'avoue, vraiment il a dit genre ouais, j'ai pris ça, ouais. Genre ils sont pas les couilles. Ah, ça, tu te rends pas compte par contre, faut pas le revendre, hein. N'y touche pas.
Combien il vaut aujourd'hui?
Bah faut regarder quoi, mais
alors,
déjà.
Alors tu sais que je
quand je l'avais trouvé au puce là, il leur vendait 13 000 balles.
Bah ouais, grave, parce qu'en ce moment non mais ouais. Pour ceux qui veulent acheter des flippers, moi en ce moment, j'ai envie de m'acheter ça fait quelques années que je m'achetais un flipper, en l'occurrence le flipper de l'arme fatale 3. Qui date des années 90.
Ouais. Où est-ce que tu vas le mettre?
On trouve une place.
Bah là, il n'y a plus de place. Là.
Et bah ouais, je sais.
Pourquoi l'arme fatale 3?
Parce que je sais pas, c'est un flipper. J'ai joué quand j'étais petit, puis je suis fan de l'arme fatale.
Est-ce que la manette, c'est un gun?
Exactement, c'est ça.
Ah oui.
Et en fait, à l'époque, il y a 3-4 ans, quand je le voulais, il était à genre 1000-1500 euros et tout. Je me suis dit, bon, c'est quand même une somme et tout. Et en fait, le marché des flippers a flambé depuis 2-3 ans là. Et maintenant, il est à 4000. Et tous les gars disent, ouais, mais dans 2 ans, il sera à 6000, 7000, etc. Donc là, je me tâte, mais.
Ouais.
Mais bon, c'est quand même un prix, quoi. Tu vois, il faut le mettre quelque part encore.
C'est-à-dire
que là, ton Star Wars, effectivement, tu dis 13 000, je pense que c'est le prix, effectivement.
Je pense qu'il a. Ouais, non, mais il a dû prendre en plus.
Putain, mais 13 000, je crois que tu te rends pas compte de la place que ça prend, hein, quand même.
Ouais, si, c'est gros.
C'est énorme.
Bah, il y a la place et le bruit aussi. C'est très bruyant.
Ouais.
Ouais, mais tu l'allumes pas tout le temps, quoi, tu vois.
Bah, comme ta borne Terminator 2, quoi.
Ma borne Terminator 2, j'ai dû l'allumer 2-3 fois, tu vois. Donc, bref.
Il y a la borne Terminator 2. Ça, on l'oublie, ça. C'est à l'époque.
Elle est belle.
C'est la meilleure pièce.
Pareil avec le gun.
Ouais.
Ouais, avec les mitraillettes et tout.
Trop bien.
Non, mais surtout, tu l'avais pas payé cher, ça, par contre.
Mais ça, j'ai fait une affaire, mon gars. Maintenant, aujourd'hui, elle est à 3-4 000 à chaque fois. J'avais acheté 900 euros.
Oh là 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 là.
Il y a 4 ans, c'était le bon moment.
Magnifique.
Dis-moi, Jérôme, le dernier film que tu as vu via une plateforme?
Eh bah, Top Gun Maverick. Non.
C'est pas possible.
Le dernier film que j'ai vu, il me semble que. Mais je me demande si c'est pas Top Gun tout court.
Ah, tu t'es refait.
Je me suis refait Top Gun.
On a tous fait ça, je crois.
Avant le. Et j'ai vraiment beaucoup ri. Honnêtement, c'est vraiment too much. Hein.
Mais je crois que je préfère le 2, en fait. C'est ça qui est fou. C'est très rare de préférer le 2
ouais,
au 1.
Moi aussi.
Bah, il y a beaucoup plus d'action dans le 2 déjà.
Ouais, mais je sais pas, le...
Puis il est plus sérieux.
Ça m'a séduit. Je suis séduit par
le 2. Ouais, en fait, il y a encore... Le 2 est quand même bien débile, hein, attention. On a une amourette écrite par mon petit frère. Il est pas auteur, donc tu vois. Mais c'est un truc...
de bagnole.
Ouais, c'est une amourette entre deux personnages, deux persos de 55 ans. C'est hilarante, quoi. C'est un truc de bébé cadom. mais le premier, c'est encore pire. Ouais. Le premier, les musiques qui s'arrêtent jamais. Ouais. Jamais. Et genre et la lisibilité, tu vois, à l'époque il y avait pas autant de moyens, c'est le premier gars, c'est hilarant, enfin dans les avions, mec, tu comprends que dalle. Je riais tout seul, t'es où, mais on sait pas du tout ce qui se passe.
Non, mais c'est vrai.
Ils sont dans les cockpits et tu sais, ils vont de droite à gauche pour regarder si l'action va se passer là, mais gars, on a aucune idée d'où on se trouve dans le ciel.
Exactement,
c'est illisible. Et là dans le 2, c'est
En fait, tu comprends exactement. Tout, quoi. C'est vrai que dans le 1, quand je l'ai revu, j'avais rien compris comme toi, où est-ce qu'ils sont dans le ciel et tout.
Gars, c'est...
Et dans le 2, il y a même, tu sais, des schémas en 3D où on voit un peu ce qu'ils vont faire pour la mission.
C'est génial d'avoir fait ça.
En gros, ils te prennent par la main en mode, tu vas très bien comprendre ce qui se passe dans le ciel.
Il y a un esprit jeu vidéo à fond, je trouve.
De ouf.
De dire, on va passer par là, on va faire ci, tac, faut se rôle. Et du coup, quand tu le vois, tu le fais, ok, c'est. Et en fait, à la scène de fin, toi-même, tu sais à quel moment ils doivent le faire.
Exactement.
C'est à fond dedans. Trop bien.
J'adore ce film.
Ouais, il est trop bien.
Peut-être mon film préféré cette année pour l'instant.
Et moi, pareil, ouais, je me suis rendu compte, je te l'avais dit, mais je me suis rendu compte dans le dernier acte où ça envoie le pâté, où vraiment je l'ai regardé avec mon ref et tout d'un coup, je suis sorti de mon corps où genre j'étais genre agrippé véritablement à mon siège. Mais c'est même pas l'expression, genre vous allez être agrippé à votre siège. J'étais comme as. J'étais genre, j'avais la nuque complètement tendue. Je fais, oh l'enfoiré, quand même,
c'est bien.
Ouais, le réel, bien wesh. Et justement, et là, pas trop de musique, moins de musique, c'est que des bruits d'avion sur la fin. T'es pour, oh là là, tandis que le premier, c'est tout le temps.
Puis même, je trouve qu'ils ont bien géré aussi la séquence émotion avec Val Kilmer. Tout est bien géré dans ce film.
Ouais, grave.
Ah, c'est bien ça.
Oh, ça m'a fait de la peine.
Bah oui, c'est toujours d'ailleurs, ma meuf, elle avait pas l'historique. Pourquoi elle fait.
Ouais, pareil.
Qu'est-ce qu'il a?
Ouais, pareil, mon ref.
Bon, ça fait pas parle plus.
J'en profite pour, encore une fois, vous. Parce que maintenant, il est dispo sur Prime Video, de vous recommander le documentaire sur la vie de Val Kilmer, qui est incroyable, que j'avais vu à Cannes il y a l'année dernière, je crois, et qui m'avait fait pleurer.
J'ai chialé aussi.
Tu l'as vu?
Ouais, chialé.
Ouais, ça fait chialer, hein.
Chialé.
Ouais.
Faut être dans une bonne vibe quand même.
Ouais, je suis bien resté sur le canapé à chialer pendant le générique. Ouais, j'ai fait, oh là là, putain.
Ouais, avec la petite musique et la guitare.
Ouais,
la fin,
trop beau. Ouais, trop beau.
La dernière série que t'as regardée?
Killing Eve.
Très bien.
Sur la saison 4, un peu moins bien.
Ouais, ok. Ouais, d'accord. Très
mais
bien.
Vraiment, les deux premières saisons, c'était absolument génial.
C'est avec la meuf de Grey's Anatomy, ça?
Exactement.
Très bien. Bah, je t'épate de ma science, en fait. Voilà ce que je suis en train de faire.
Et l'autre actrice aussi, qui est absolument, qui s'appelle Jodie Comer, je ne sais plus, qui est absolument extraordinaire, qui joue le rôle de Villanelle, qui est l'autre personnage principal et qui joue dans le dernier duel.
Tu m'as moins épaté là, du coup, tu vois. Parce que t'as galéré à raconter le.
Ouais, tout. Ouais. Passons à la question suivante.
La dernière chanson que t'as écoutée?
Dernière chanson que j'ai écoutée.
Là, avant de venir, tu t'es fait un petit son.
Attendez, ouais, je vais regarder.
T'es venu comment? En métro, en voiture,
Je suis venu en scooter. Ah bah là, c'était Laurent Garnier, Bertrand Belin et. The Limanas.
Est-ce que t'as un titre?
Limignanas.
Ouais, si voilà, merci.
Au début, c'était le début. Plus vite, ce fut la suite.
Le dernier livre que t'as lu?
Le Chien des Baskerville, c'était en quatrième.
J'allais dire, c'est un livre à l'ancienne. Mais
donc, c'est du Sherlock Holmes, c'est ça, hein?
Ouais.
D'accord, très bien. Ça t'avait plu?
C'était génial. Et après, je me suis dit, avec les images, c'est mieux, genre manga.
T'étais obligé de le lire pour l'école ou vraiment c'était un plaisir?
Totalement obligé.
D'accord, ok. Ouais.
Je n'ai jamais rien lu de. Je lis pas.
La dernière BD ou le dernier manga que t'as lu, ça, tu le fais aussi ou...
ouais, ouais, alors en BD, qu'est-ce que je. Ça remonte. Ça doit être un Enki Bilal que j'ai chez WAM.
Ok.
Mais je sais plus c'est quoi. C'était il y a très longtemps en fait. Ouais, j'ai pas lu depuis longtemps. Même BD ou manga.
Alors justement, le dernier objet culturel que tu as acheté.
Ah.
Tu t'es fait un petit achat récemment?
Non.
Ah ouais, t'achètes pas, toi. Tu t'achètes pas des petits plaisirs comme
non,
ça.
Non, je me suis pas acheté. J'ai acheté un meuble pour mettre des vinyles. Donc, il y a quand même un peu, voilà, tu sais, un meuble un peu en plexi transparent, mais marron.
Ah. Donc, tu t'écoutes des petits vinyles, toi?
Je m'écoute des petits vinyles,
ouais.
Exactement.
Quoi comme vinyle? T'as des petits vinyles que
ouais,
t'aimes
ouais,
bien,
ouais, c'est ça, ouais.
carrément des vinyles, quoi.
Bah, ouais, attends, tu déconnes ou quoi? Tours, mais carrément, avec vinyles, gars.
D'accord, très bien.
Bah, ouais, ouais.
Et enfin, là où le dernier artiste que t'as suivi sur Insta ou Twitter? Il y a un petit artiste que t'as suivi récemment, là? Tu likes ses photos, tu regardes ses stories.
Bah, ouais, exact.
Ok. Mais écoute, Jérôme.
Attends, bah regarde, on va le. C'est qui? Alex Baupin.
C'est Alex Baupin que t'as suivi là, ouais. Récemment.
Exactement.
Et alors, ça te fait plaisir, ces stories? Il met des bonnes stories?
Bah ouais, carrément.
Ok, très bien. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler de ton actu?
Ouais.
Alors, je sais que tu joues à l'Européen depuis quelques temps. Très bon spectacle.
Merci.
Qu'on a eu la chance de voir.
Ouais. Merci beaucoup.
Là, je sais qu'il reste quelques dates encore à l'Européen.
Quelques dates jusqu'au 6 juillet. Venez nombreux. Alors, attends, c'est à l'Européen de Paris.
Parce que je crois que ce podcast sort...
Jusqu'au 20 juillet, pardon.
Ah, jusqu'au 20 juillet.
Ouais.
Ah d'accord, très bien.
Jusqu'au 20 juillet. Donc, il reste quelques dates encore. Vraiment très peu de dates. Et après, je pars en tournée dans toute la France, octobre, novembre, décembre.
Est-ce que tu as des petites villes comme ça à nous donner pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément à Paris?
Bordeaux.
Ok.
Lyon.
Ok.
Nice. Lille. Saint-Grégoire. Entre autres.
Ok. C'est
mais
où,
en Belgique, en Suisse, c'est Bretagne.
D'accord.
Et aussi en Suisse et en Belgique.
Ok, pas mal.
Voilà.
Comment ça évolue ce spectacle? Parce que je sais que tu me disais qu'il y a des nouvelles vannes qui arrivent, tu joues beaucoup avec le public.
Ouais.
C'est un spectacle qui a vocation à évoluer au fil des dates.
Là, qui a évolué déjà depuis. Enfin, je pense là depuis que vous êtes venu, il y a des trucs nouveaux. Là, j'ai changé un truc, j'ai rajouté un truc sur la dernière minute du spectacle que j'ai rajouté là il y a deux semaines.
Ok.
Et là, on réfléchit à un nouveau éventuellement un nouveau sketch qui pourrait s'insérer, qui me fait marrer. Donc, mais là, il faut qu'on réfléchisse dessus. Et ce serait bien qu'on essaye de le tester avant la fin, mais je sais pas si on va avoir le temps parce que ça se réfléchit quand même, quoi. C'est un nouveau truc, une nouvelle parenthèse. Donc mais ouais, bien sûr, il est toujours amené à évoluer. Ouais.
Quand tu dis on, tu parles aussi de Axel Malivernet avec qui tu travailles.
Voilà,
qu'on a déjà reçu dans ce podcast.
Exactement. Et Edouard aussi, Edouard Pluvieux, mon metteur en scène. Donc on brainstorm à trois et voilà.
Très bien. C'est la fin de cet épisode.
Eh ben, j'ai été ravi.
Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Sacré Robin des Bois. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinébatcher dispo sur le site de We Love Cinema. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à Kylian qui a enregistré cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines. Bye tout le monde.
Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinema par BNP Paribas.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.